Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité.
Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi.
Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains.
Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs.
L'Europe a besoin de migrants. On en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent.
En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés.
On appelle ça l'altruisme intéressé.
Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 24. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter à notre adresse email, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous soutenir pour que l'aventure continue en nous faisant des dons exclusivement en crypto-monnaie. Comme vous le savez, nous recommandons l'utilisation de Monero comme crypto-monnaie. Son usage est explicité sur le site sur la droite, dans un guide qui vous permettra de procéder au virement d'un don, peu importe le montant. Vous pouvez aussi vous rendre sur le forum Europe Écologie Les Brins à l'adresse suivante, eelb.su. Vous pouvez poser différentes questions d'ailleurs sur ce forum. Donc vous y êtes les bienvenus, et cette semaine nous sommes à environ, nous avons franchi la barre des 2000 membres, ce qui est plutôt positif. J'aimerais qu'il y en ait 20 000, mais enfin 2000 c'est sympathique. Sur ce, je vais procéder à la présentation des membres de cette semaine qui participent à notre émission. Je vais commencer avec Pierrot. J'espère qu'il va bien. Pierrot, comment ça va de ton côté?
Salut Gandalf, salut à tous. Ça va très très bien. J'ai la patate aujourd'hui.
Eh bien, tu m'envoies ravi, Pierrot. Tu m'envoies ravi. J'enchaîne avec MacDave. Comment vas-tu, cher MacDave?
Bonsoir Gandalf. Bonsoir, chers amis. Cela va très très bien. Eh ben, chaudement.
Chaudement, bah, formidable. J'enchaîne avec notre ami Fulbert, qui travaille toujours sur sa cave, hein, un long travail, hein, digne des pyramides d'Égypte. Comment vas-tu, Fulbert?
Fulbert va bien, Gandalf. Bonjour à toi et bonjour à tous.
Diabolix aussi est avec nous cette semaine. J'espère que ça va aussi pour toi, Diabolix.
J'éructe, je peste, j'ai des envies de thermonucléarisation.
Ah, tu nous en diras peut-être plus dans l'émission. Derek aussi.
Je crois que l'actualité est suffisante.
Oui. Sa Majesté Derek est avec nous également. Cardinal qu'on ne présente plus, église qu'on présente encore moins, puisqu'elle est très occupée en ce moment. Comment allez-vous, cher Derek?
Ah, écoute, nous allons très bien, hein, comme d'habitude. La foi se propage, tout va bien.
Ça va même de mieux en mieux, j'ai l'impression.
Ça va de mieux en mieux. Ah oui, c'est extraordinaire, extraordinaire.
Oui, période faste, s'il en est, effectivement.
Exactement.
Alors, messieurs, avant d'entamer la discussion de la semaine, qui sera, je pense, assez riche et qui devrait plaire, à mon sens, à nos auditeurs, je voulais quand même qu'on s'arrête sur un jour qui, de fait, est un jour marqué médiatiquement, c'est les commémorations du 80e appel du 18 juin par le général Charles de Gaulle. Je sais que certains insistent sur le fait qu'il était colonel. En vérité, bon, je laisse cette polémique à ceux que ça intéresse. Et donc on a quand même été copieusement hein, alimenté hein, en consignes, mots d'ordre. Il y a eu hein, une exaltation donc de la France libre, un appel à la résistance. J'ai vu ça aussi. Il y a eu des commémorations qui ont été télévisées. Le président Emmanuel Macron s'est rendu lui-même, je crois. Comment dirais-je, j'ai oublié le lieu dit où il s'est rendu, là vous savez c'est très connu, c'est un lieu où un maquis assez célèbre, comment dirais-je, s'est fait connaître, en tout cas dans la mythologie résistentialiste, etc. etc. Bref, premièrement, là je très librement je pose la question, parce que moi j'ai mes conceptions là-dessus, mais peut-être que vous allez différer de moi. Est-ce que vous avez l'impression que ces célébrations du 80e appel du 18 juin 1940 ont mordu dans l'opinion, ou est-ce que vous pensez que ça a été plutôt un flop? Comment vous voyez ça?
Perso, je pense qu'en termes de quantité, c'est plutôt un flop. Les jeunes s'en foutent.
Quelle quantité?
Les jeunes s'en foutent. La population générale s'en fout. Mais Macron, peut-être qu'il ne s'adresse pas spécialement à cette population-là, il s'adresse à son électorat, les vieux. Donc, généralement, les vieux, ce qui les rassemble, bah, c'est De Gaulle. Bon, c'est de la merde, hein. Moi, je pense que c'est de la merde, mais bon, les vieux, niveau conscience politique, c'est pas trop ça. Et, mais bon, la résistance, tout ça, c'est un peu des vieilles ficelles. Hein. Moi, j'ai l'impression que les gens s'en foutent. Hein.
Donc, toi, pour ouais, toi, plutôt flop, donc tu dirais Pierron.
Ouais, bien sûr.
Plutôt fiot.
Plutôt fiot, Macron. Fiot, Macron, est-ce qu'il y a un lien?
Sciences Po, normal sub, je ne sais pas. Derek.
Ouais, mais moi pareil. Hein, ça m'a pas intéressé plus que ça. Bon,
Non, mais toi, je sais, parce que bon, on va dire, ouais, mais,
non,
mais
je,
forcément.
Pour, non, mais je fais une petite veille quand même. Non, mais je fais quand même une petite veille sur les médias et compagnie pour regarder. Même les médias officiels n'étaient pas vraiment. On était plus sur le à disserter sur le
oui, l'avènement.
Le pénis de George Floyd.
Oui, l'avènement. Oui.
Il y avait des informations plus importantes, l'avènement du Christ, hein, Christ du nègre rédempteur. Bon, le 10 juillet, c'est passé un petit peu. Ah, bon, attendez, ouais, on doit dire du bien, genre général De Gaulle, voilà, bon, c'est passé. Quoi. Ça c'est sur la.
Pourtant, il y a eu une retransmission en direct, des cérémonies, etc.
Ouais, mais à quelle heure?
Le matin.
Qui regarde ça?
Ouais, mais.
Non, mais voilà. Je veux dire, je ne peux pas m'empêcher de vous le souligner.
Télématin, c'était les matins.
Non, télématin, c'est 7h, c'est très tôt. Magdav, il faut le savoir, est un gaulliste en rémission.
Il y a prescription là.
Non, mais
il y a prescription, tu vois.
Non, mais les gens sont libres.
Quand t'es gamin et que comment dire, t'as signé une part du discours souverainiste, bon voilà.
Il y a pas de problème. Mais toi justement, du coup, alors parce que t'as un regard critique, t'es pas. T'as tes conceptions, tes convictions. Alors toi, du coup, t'as l'impression que. Parce que moi, mon sentiment, c'est qu'ils ont quand même essayé de pousser un petit peu, voilà, les 80 ans, en disant, voilà, il s'est passé un truc et tout, voilà. Donc, Derek dit non, les médias, ils ont pas trop poussé. Bon, moi, j'étais sur les réseaux sociaux, j'ai quand même vu LCI, BFM, voilà, ben, ils ont quand même essayé de mettre un peu ça en avant. Il y a quand même eu un déplacement présidentiel. Bon, je sais que c'est Macron, mais bon, quand même, bon, voilà, le président a voulu marquer de sa présence l'événement. Tu dis quoi? Tu dis. Non, ça n'a pas particulièrement fait de vague, ça n'a pas suscité trop l'attention. Comment tu vois ça?
Écoute, moi j'ai suivi deux choses. D'une part, les patrouilles aériennes, des combinés des Red Arrows et de la patrouille de France à Londres et à Paris, sur un modèle très américain d'ailleurs, lié à ce qu'a fait Trump pendant le coronavirus. J'ai suivi un petit peu ce que disait la presse historiographique, quoi. Donc, que ce soit au niveau vulgarisation ou plutôt un peu plus universitaire. Et ils sont assez critiques du mythe gaulliste. Hein. Beaucoup de gens.
T'as des exemples très, très précis?
Ouais, je sais pas. Par exemple, des chaînes YouTube. Je parle pas vraiment des gros vulgarisateurs, là, Anto Bene ou tout ça, mais. Que ce soit la presse historique. Tu vois, enfin les magazines ou alors des émissions de radio un peu plus sérieuses, ou même il y a plein de biographies qui sont en train de sortir en ce moment. On est quand même assez critique et on considère vraiment qu'en fait, bon bah, je veux dire, De Gaulle, quand il a fait son appel, il n'y avait personne. Personne ne l'a entendu. Il s'adressait surtout, on va dire, aux quelques ingénieurs et quelques soldats qui étaient sur le sol anglais. Et que, en fait, le gaullisme, en fait, c'est une posture politique qui est propre à la droite, mais qui n'a de moins en moins de sens. Et je pense que, honnêtement, à part les gens qui s'intéressent à ça, personne n'a rien à foutre, quoi. On va faire un tour à Colombey, les deux églises, les types qui vont s'agenouiller dans la statue du... Dans la statue...
Ouais, la Croix de Lorraine.
Oui, enfin, c'est des margoulins de troisième zone, je veux dire, honnêtement, c'est de la posture plutôt qu'autre chose.
Tu penses à Florent Philippot, peut-être.
Pas que lui, tu vois, je veux dire, même un type comme Joachim Sonforgué va faire ça, quoi. Je veux dire, quand Joachim Sonforgué va en pèlerinage à Colombey, les deux églises, c'est là que tu te rends compte que le gaullisme est mort à intérêt.
Il est peut-être mort sans vivant d'ailleurs, mais.
Comment dire. Mort de son vivant.
Qu'a fait Nabila, elle s'était la rendue sur la tombe du général.
Putain, tu vois. Ça pourrait venir, hein. Ça pourrait venir, et déconne pas. Hein. Je dis Cyril Hanouna s'agenouillant devant le général de Gaulle, c'est peut-être plus proche que tu ne crois. Hein.
Alors le truc. Oui, alors, MacDav, je pense que là tu prophétises. Voilà quelque chose qui ne se passera pas avec Adolf Hitler.
Non.
Mais je veux pas accabler le général de Gaulle particulièrement dans le cas d'espèce, mais je suis intéressé par ce que tu dis. Quand tu dis, voilà, il y a une distanciation assez critique sur l'appel du 18 juin. Hein. Et oui, en fait, il y a beaucoup plus de gens qui
l'ont. Hein,
non, mais en fait, l'appel du 18 juin, dont on nous dit, voilà, c'est un moment extrêmement important de l'histoire de France. En fait, on l'entend beaucoup plus en 2020, comme on l'entendait en 2010 et en 2001, que au moment des fêtes. Au moment des fêtes, donc le 18 juin 1940. Je veux quand même souligner ça parce que c'est au plan historique, c'est très important, c'est qu'il n'y a pas eu d'appel le 18 juin 1940. Ça, c'est le premier truc.
En fait, il y a un texte.
Des brouillons
écrits, on ne sait pas si ça a réellement été enregistré. Parce qu'il faut savoir une chose, hein, c'est que la.
Ça n'a pas été enregistré.
Oui, mais ça n'a pas été enregistré, et les gaullistes vont dire si, c'est enregistré, mais la BBC censurée. Voilà.
Oui, non, mais bien sûr. Là, en fait, ce qu'on sait du truc, c'est qu'en fait, De Gaulle, quand il est le 18 juin à Londres, en fait, agit toujours dans son esprit, dans la continuité gouvernementale française. En fait, pour lui, il est là, il représente en fait le gouvernement français à Londres, en fait, en gros. Mais il y a un atermoiement, puisque en fait, c'est le foutoir complet, on discute d'armistice, il faut bien se rendre compte, on est sur un laps de temps très très court. Hein. L'armistice sera signé quelques jours plus tard. Donc vous imaginez bien, quoi, il y a des bruits de couloir, des propositions, des contre-propositions, etc. Bon, tout ça est très confus. Et puis De Gaulle, il est à Londres, voilà, il est là, il dit qu'est-ce que. Et lui, pour lui, il était dans la logique, parce que c'était les pistes qui étaient étudiées, dans la logique d'un gouvernement en exil. Alors vous savez, il y a eu la fameuse histoire du réduit breton, hein, on a. Le gouvernement qui avait quitté Paris, qui s'était réfugié sur Bordeaux, avait étudié pendant un moment l'hypothèse militaire d'un réduit breton. Le gouvernement De Gaulle a été envoyé en Bretagne, à Rennes, pour étudier la faisabilité du projet d'ailleurs, quelques jours avant le 18 juin. Là, on est vraiment le 12 juin, je crois, quelque chose comme ça, quelque chose de cet ordre-là. Et donc il est à Rennes et il doit étudier l'affaire. Et le gouvernement aurait dû siéger à Quimper. Je n'en dirai pas plus. Mais comment dire. Bon, De Gaulle, étant quand même de formation militaire, se rend compte de l'absurdité de l'affaire au plan militaire. Résister au Troisième Reich sur 100 km au large de Rennes. Bon, non, mais c'est gris. Bon, bref. Alors, il y a que des politiciens français de gauche qui
peuvent. Infaisable, quoi.
Non, mais franchement, bon. Et les juifs étant un petit peu plus quand même, ayant un peu plus de suite dans les idées, notamment Mendel et Mendès France, hein, le France étant en trop. D'ailleurs, Mendès jouait à domicile à Bordeaux. Hein. Elle s'était dit que c'était pas plus mal de s'embarquer sur un navire direction le Maroc avec l'or de la France. Enfin, des Français surtout. Et ils en ont été empêchés par des dockers dont on savait, enfin, je veux dire, ça c'était connu déjà à l'époque, les dockers étaient communistes. Donc c'est des dockers communistes qui ont empêché les Juifs de fuir avec l'argent des Français direction le Maroc, c'est-à-dire la patrie. C'est quand même fascinant, je veux dire, de Mendès France, dont les rejetons aujourd'hui sont en train de nous donner des leçons d'antiracisme, et dont on sait par ailleurs que la famille Mendès France a fait fortune dans le commerce des esclaves. Enfin, tout ça est extraordinaire, ça mériterait... Ça mériterait des émissions et des émissions et des émissions.
La dystopie est, ma foi, voilà, ancienne, donc on peut le penser.
Alors, Radio Londres a existé, mais, 80 ans plus tard, et c'est la nôtre, elle n'est pas tout à fait à Londres. Mais ça aussi, c'est autre chose. Alors, bref.
On a l'impression que plus le temps passe, plus ils sont obligés d'insister lourdement sur les faits, quoi. Un peu comme pour la Shoah, d'ailleurs, quoi. C'est vraiment les grosses ficelles.
C'est pas les faits.
En fait, c'est pas les faits, c'est complètement évident. Et c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire, De Gaulle, il est dans cette espèce de ruée, quoi. Voilà. Le gouvernement cherche un point de chute. Qu'est-ce qu'on fait? Le Quimper et du Breton? Non. Afrique du Nord, Alger, c'est le foutoir. De Gaulle, on l'envoie en Bretagne, il va à Rennes, le truc, il est pas faisable. Il revient à Bordeaux. Par avion, bien sûr, et on dit, bon, allez à Londres, et puis on va prospecter, quoi, hein, et puis on va peut-être... Et puis, en fait, rien ne vient. De Gaulle est là, il est à Londres, le 18, enfin, il est là depuis la veille, rien. Bon, le mec commence à publier truc. C'est pas lui qui a eu l'inspiration, c'est les services britanniques, c'est l'Angleterre, c'est le gouvernement anglais, c'est Churchill. Churchill est déjà en train de calculer la suite. Parce que, vous en pensez bien, les services de renseignement britanniques sont très bien renseignés, et pour cause, parce qu'ils sont alliés avec les Français, donc les autorités militaires françaises communiquent aux Britanniques l'évolution de la situation, et ils sentent que les Français vont être acculés, donc la question ça va être de savoir, est-ce que les Français vont franchir le pas d'une occupation formelle par l'Allemagne, avec un gouvernement en exil dans ses colonies, ou est-ce que les Français vont transiger ? Ce qui est la position, évidemment, du maréchal Pétain. Et De Gaulle va devenir, en fait, un pion dans la stratégie britannique pour essayer de donner corps à une espèce de pseudo-opposition qui n'a aucune espèce de réalité sur le terrain le 18 juin. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'opposition française, de résistance française, le 18 juin 1940 à l'invasion de l'Allemagne. Pourquoi ? Mais l'armée française continue à se battre le 18 juin. L'armée française n'a pas déposé les armes le 18 juin. Elle continue à se battre. L'armistice n'est pas signé. Donc pourquoi voulez-vous qu'il y ait une résistance militaire déclarée à l'Allemagne contre Pétain ? Il n'y a même pas d'armistice à cette date. Intellectuellement, déjà, c'est complètement stupide. Bien. Donc l'armée française continue à résister à l'invasion. Et voilà notre De Gaulle, qui devient, par la force des choses, un porte-parole. Et alors, il y a... toute une série de débauches de papiers qui circulent, et on sait, parce qu'on a eu la version du 18 juin, le papier qui va émerger dans tout ça, ça va être un papier en fait qui prend soin de souligner le fait qu'il n'est pas en contradiction avec, on va dire, le gouvernement de fait qui règne sur la France à ce moment-là. Donc il n'y a pas de délégitimation, si vous voulez, du cabinet en place. Ça viendra plus tard, 4 jours plus tard, le 22 juin, où là, il y a, sur exigence du gouvernement britannique, il y a une...
L'armistice, du coup.
Voilà, c'est une disqualification ordonnée par les Britanniques à De Gaulle. De Gaulle signe ça, il va même le lire à la télé... Enfin, c'est un pantin. Il lit ce qu'on lui dit, on lui dit, voilà, cet armistice, est nul et non avenu. Enfin, en gros, ça... C'est même pas forcément la position officielle des Britanniques. C'est même pas forcément... Mais c'est une façon de créer ex nihilo un gouvernement en exil. Et ce gouvernement en exil dit, le gouvernement français, il n'est pas légitime. Mais sur le terrain, en France, donc là, pour le coup, après l'armistice, la position de Pétain est acclamée par l'immense majorité du peuple français. non pas par une adhésion idéologique à ce qui viendra plus tard, la révolution nationale ou des idées d'extrême, simplement parce que le maréchal Pétain met un terme à la bataille, à la guerre et aux destructions. Et les Français plébiscitent.
L'armée française, surtout, s'est fait balayer.
Hein. Tout à fait, voilà. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que Pétain
réussit à... S'il n'y a plus d'armée, soit le peuple... Enfin, ça fait la guérilla. Où on va faire...
Sans aucune chance de succès, d'ailleurs, bien sûr.
Ouais, d'ailleurs. Et donc, on va aller dans le sale, le très sale. Et on va crever. Soit on fait une armistice et puis bon, on essaie de sauver les meubles, alors à peu près. Quoi.
Donc, mais le truc est extra.
Il n'y avait pas de choix.
Pétain a réussi un tour de force diplomatique. C'est ça que les gens ne reconnaissent pas. Quoi. Ouais. Encore une fois, je distingue bien ce moment particulier de la suite. Je veux dire, chacun pense ce qu'il veut de la suite. Mais...
Oui, que par rapport à Vichy.
Oui, voilà, bon, chacun aura
son. Qui est très discutable.
Voilà, chacun. Voilà, bon. Mais. Pétain réussit un tour de force extraordinaire, c'est-à-dire que l'armée française, elle est vaincue, mais écrasée, elle est écrasée en un mois. Personne ne pensait ça, ni les Américains, ni les Britanniques, personne ne pensait ça. Elle a été écrasée, et Pétain réussit ce tour de force d'obtenir, non pas une occupation totale, mais un armistice négocié, avec une partie du territoire français qui n'est pas occupée par les Allemands. C'est les gens ne se rendent pas compte. Moi, je demande aux gens qui nous écoutent, mais imaginez-vous si vous aviez été à la tête du gouvernement français dans cette situation d'urgence, d'effondrement général avec la Wehrmacht, et la Wehrmacht de 1940, pas la Wehrmacht de 1945, celle de 1940, vous l'aviez chez vous, vous êtes balayé et vous arrivez à sortir ce tour de force. Il faut le souligner. Personne ne le souligne, tout le monde s'en fout, tout le monde passe ça par-dessus bord comme si ça n'avait pas existé, bah, c'est faux.
Des centaines de milliers de soldats morts, je crois 100 000 soldats.
100 000 soldats en 100 000, un mois, hein. C'est le taux de mortalité qu'a connu l'été 14, hein. c'est extrêmement létal. Hein.
C'est violent au niveau de la... sur la période, c'est extrêmement violent. Plus après je crois que ça a engendré des périodes de troubles au niveau civil.
Bah, il y a eu des millions de réfugiés.
Dix millions de réfugiés
dans toute la France.
Parmi l'Exode, tu as eu plus de morts dans l'Exode en lui-même, parmi
la population civile,
dans la précipitation, sont morts comme ça. Il y a plus de morts comme ça que de soldats directement par la guerre. C'est vraiment une période.
C'est une période très trouble.
Surtout pour les gens du Nord, quoi. Bon, les gens qui étaient dans le Sud.
Ils ont moins été affectés. Enfin, ils ont été affectés quand même parce qu'il y a eu beaucoup de réfugiés quand même. Donc,
ils ont été affectés, oui, mais ils ont pas été dans le.
Dans les combats, ils n'ont pas été impactés par les combats. Non.
Ah, ils ont dû accueillir des juifs, les pauvres.
Non, mais malheureusement, c'est une époque qui est extrêmement trouble et pour les Français, c'est tout à fait normal. C'est un traumatisme très profond et qui n'a pas été abordé, d'autant plus que précisément à cause de De Gaulle, certains diront.
On a gagné,
on a gagné. Voilà, c'est ça. Donc, pourquoi s'attarder sur les défaites alors qu'on a gagné la guerre? Alors qu'en fait, non, le traumatisme a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond. Que ce qui n'est paru. Et moi, c'est ça qui me...
Grâce à De Gaulle, on a gagné la guerre. Oula.
Bah non, mais factuellement, oui, c'est ça. Enfin, la France a été...
Il y a des gens qui y croient, hein.
Non, mais c'est...
Au niveau diplomatique, il a joué avec tant de force.
Non,
mais même pas que les gens. Il a fait... au niveau de l'ONU...
Il a fait de la France... Une puissance victorieuse, qui est incroyable. Mais,
il a fait un coup de bluff.
Par la propagande, c'est un communicant, De Gaulle. C'est un communicant, un politique, ni plus ni moins.
Oui, non, mais d'accord, t'as raison. Mais c'est pas parce que tu communiques que tu l'emportes. Et moi, je reconnais à De Gaulle, de son point de vue, de politique, beaucoup plus politique que militaire, n'empêche qu'il a remporté la partie. Il a réussi à faire de la France, qui était vaincue de la même façon que l'Italie, quoi. Une puissance victorieuse au sein des alliés dans les négociations, c'est ce qui est sans armée. Il faut reconnaître un truc comme ça.
Mais c'est quand même un tour de force remarquable. Hein. D'un point de vue politique.
Ouais, au niveau politique, c'est remarquable. Politique.
Totalement. Alors du coup, c'est ce qui a évacué, en fait, le choc énorme de la défaite de 1940. Bon, pour moi, c'est une affaire très personnelle, puisque j'ai des membres de ma famille qui ont combattu à cette époque-là dans l'armée française et qui ont été faits prisonniers. Donc c'est quelque chose qui, pour moi, reste encore assez immédiat, même si on est à 80 ans de distance. C'est pas quelque chose de familier. Bien sûr, ceux qui vivent dans les régions du nord de la France s'en rappelleront nécessairement par leurs grands-parents ou arrière-grands-parents, mais c'est quelque chose quand même de très présent. Et ça a été très vite. Ça se passe en un mois. C'est un bouleversement. C'est un mois, c'est 4 semaines. Espèce de déferlement, hop, et la France, qui était une très grande puissance mondiale à l'époque, rappelez-vous, elle avait un empire colonial qui était mondial, elle était alliée à la Grande-Bretagne qui elle-même était un grand empire colonial, soutenue par les États-Unis diplomatiquement, pas militairement mais diplomatiquement, ce qui renforçait encore sa position, et voilà, en un mois, elle est balayée. Cette guerre aurait pu être évitée, mais c'est un autre débat. Et ce choc-là ne sera jamais... ne sera jamais discuté, ne sera jamais abordé, ou très peu, ou très marginalement, et malheureusement...
Tu parles de la défaite de 40 ?
Ouais, c'est ça, je pense que... C'est...
Ah, si, non, au contraire, attends, il y a eu une culture populaire sur la défaite de 40, qui en fait a
oui.
montré le soldat de 40 comme un bon type, bien débonnaire. Alors ça, c'est pour la partie vraiment culture populaire, avec tous les films...
c'est la 7e compagnie, qui...
Non, mais ça va, y a pas que ça, c'est l'image du soldat français de l'époque, qui était pas totalement fausse d'ailleurs, tu vois, qui était ouais. empêtré dans ses godillots, qui avait une guerre de retard, qui était vraiment...
qui était pacifiste, en fait.
Oui, pacifiste, oui.
Non, mais c'est ça, c'était pacifiste.
Mais t'as aussi autre chose, t'as toute... tous les gens qui ont récupéré Marc Bloch et l'étrange défaite.
Ah oui, tout à fait.
Au niveau de la gauche et puis aussi au niveau de la droite, des gens qui ont, à juste titre pour pas mal de cas, ont dit qu'effectivement bah, les communistes et même les socialistes par les 40 heures ont empêché la France de combler son réarmement parce qu'elle avait l'armée française était consciente d'avoir certaines lacunes du point de vue matériel.
Mais il y avait une réalité militaire derrière. Enfin, je sais que il y a des Français, je ne sais plus quel régiment, mais c'est un truc complètement anachronique, qui ont mené une charge dans la campagne d'Afrique contre les Italiens avec des chevaux et des sabres, quoi. L'armée française, quoi. Donc ça fait peur. Hein.
Bah, on a retrouvé les Polonais à faire la même chose avec des lanciers contre des blindés allemands. Alors. Les gens trouvent, enfin, certaines personnes trouvent ça extraordinaire, mais
c'est un peu un mythe. Hein. Les Polonais avaient des chars.
Non, ils avaient des chars, mais ils ont fait des chars.
Non, mais je veux dire, les Polonais avaient une cavalerie parce que c'est un territoire de plaine et de vaste étendue, et qu'en fait, c'est une forme d'infanterie, si tu veux, pour eux. La cavalerie a le rôle qu'avait l'infanterie.
Non, mais d'accord, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, mais si tu veux,
Il y a un livre à lire là-dessus, c'est le livre de Karl-Heinz Frazer, qui est un colonel de l'armée allemande, hein, qui est historien, qui s'appelle Le mythe de la Blitzkrieg. Je vous invite à lire ce livre. Et je pense vraiment que cet historien a mis le doigt sur quelque chose. La victoire de 40 des Allemands est en grande partie un coup de bluff. Et un coup de bluff... vraiment monumental, c'est une partie de poker. Ils ont fait all-in, tapis, et ils ont totalement déstabilisé, pas forcément l'armée française, mais l'état-major de l'armée française. C'est une grande différence, parce que les soldats français, contrairement au mythe qui a été véhiculé par justement la culture populaire, se sont bien battus, globalement. Alors, ils se sont pris quelques tannées, mais dans l'ensemble, ils se sont battus de façon assez correcte. Il y a les mémoires de Guderian, de Heinz Guderian, qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Il faut lire ces mémoires. C'était vraiment un homme fantastique. Et il explique l'invasion en Pologne, l'invasion en France et l'invasion en Russie. Ce qui est fantastique, c'est que en Pologne, quand il fait l'invasion de Pologne, il n'est pas aussi sûr de lui. On sent vraiment que il découvre les choses et que la Blitzkrieg n'est pas aussi fluide et aussi pensée qu'on pourrait le croire. Et il faut même aller plus loin. En fait, Guderian et comment il s'appelle, Von Manstein, ont, je ne dirais pas désobéi, mais avaient une latitude pour forcer un plan qui ne faisait pas consensus dans l'état-major allemand. Et ça n'a pas été réellement planifié. En fait, la Blitzkrieg en Pologne ou en France ne sont pas totalement planifiées. Ce qui est planifié, c'est le coup de faux. Mais l'aspect tactique, lui, par contre, c'est quelque chose qui a été théorisé de longue date avec des chars qui n'en étaient pas réellement. Je veux dire, pendant très longtemps, les Allemands ont conceptualisé la guerre sans avoir les moyens d'avoir une réelle armée. Et Hitler a participé à cet effort. Et ils avaient un réel avantage tactique. Et ils ont gagné à ce niveau. Mais d'un point de vue matériel et d'un point de vue, on va dire, de la qualité des hommes, la victoire allemande n'était vraiment pas certaine.
Quelqu'un d'autre sur ce point précis? Pas spécialement? Non. Enfin bon, donc le 18 juin, on est... pour le coup, la défaite française, elle est en train d'être consommée. Les Britanniques sont occupés à jouer un coup de poker diplomatique aussi, et ils ont besoin d'alliés sur le continent pour poursuivre ce qui va devenir la bataille d'Angleterre. Et ils doivent dire, bah voilà, non, il y a des gens qui continuent à lutter, voilà, l'affaire n'est pas terminée. Et De Gaulle va devenir un petit peu le joker dans cette partie-là de carte. Je tiens à dire d'ailleurs que au milieu de la Deuxième Guerre mondiale, Churchill donnera les coordonnées du vol de De Gaulle entre l'Afrique du Nord et la Grande-Bretagne. De Gaulle se rend en Afrique du Nord pour une mission politique et diplomatique. Churchill va donner les coordonnées du vol à Vichy avec très clairement l'intention, enfin l'invitation faite à Vichy de détruire l'appareil et de tuer De Gaulle. Churchill a voulu faire assassiner De Gaulle par Pétain. Et Pétain refusera en disant, en gros, ce n'est pas le genre de choses que nous faisons. En gros, c'est trop bas. J'aime autant vous dire que De Gaulle n'aurait pas réfléchi à deux fois avant de faire, avant de faire abattre l'avion. C'est tout à fait entendu. Mais il faut le savoir. C'est-à-dire que Churchill a essayé de faire abattre De Gaulle quand il commençait à devenir gênant. C'est-à-dire que quand De Gaulle a réussi à organiser un certain nombre de réseaux, etc., et les Britanniques ont dit, tiens, notre créature commence un petit peu à nous échapper, voilà quelqu'un qui a des velléités d'indépendance... Il serait bon de s'en débarrasser. Personne n'en parle jamais.
Gandalf, c'est un fait historique. Churchill avait dit « Chacun porte sa croix, moi je porte la croix de Lorraine » en parlant de De Gaulle.
Tout à fait. Alors, du coup, maintenant, je voulais basculer sur ce qui est fait du 18 juin aujourd'hui. Ça, c'est fascinant avec l'histoire. C'est pas tellement les fêtes en eux-mêmes, c'est la façon dont ils sont utilisés par des gens qui n'ont pas connu les événements. Bon, ça, c'est le...
C'est donc l'antifascisme.
Alors, bon, évidemment, De Gaulle est antifasciste. Enfin, sinon, l'appel du 18 juin perd sa signification. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de...
Oui.
Non, enfin, ce que je veux dire, c'est que, alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la récupération. Donc, on est dans des célébrations, 80 ans après les faits, on nous dit, voilà, 80 ans, c'est un chiffre rond, c'est important. Il faut que les gens s'y intéressent. Et c'est pour ça que j'ai commencé la discussion là-dessus, en vous demandant, comment vous avez perçu ça, est-ce que vous avez l'impression que les médias, ils en ont beaucoup parlé ou quoi? Pour savoir si l'effort de propagande avait porté. Est-ce que la propagande résistentialiste autour de ce faux appel du 18 juin, parce que Je le dis, il y a eu des brouillons. D'abord, l'appel n'a pas été prononcé à la radio, hein, ça n'a pas existé. Ceux qui... Comme dit l'autre, pour prouver le contraire, il faudra nous fournir un enregistrement hein, de la BBC. Il n'y en a pas, c'est quand même très problématique. Il y a eu des brouillons de papier, aucun ne s'oppose formellement à Pétain, donc il n'y a pas d'appel à la résistance armée contre le gouvernement de Pétain ou quoi que ce soit, tout ça c'est du flan. Maintenant il y a la récupération du truc. Donc, les bobards des gaullistes, parce qu'on a une... On a le, comment dirais-je, le détail hein, de l'évolution de la propagande autour de l'appel du 18 juin. Ça s'est à peu près formalisé autour de 1942. Hein. En 1941, il y a déjà un petit truc, et puis en 1942, ça commence à se formaliser. En 1943, c'est très ancré, et ça deviendra un élément cardinal. D'ailleurs, De Gaulle dira lui-même, à demi-mot, il reconnaîtra d'ailleurs que c'est factice, il dira, oui, effectivement, par l'usage... le 18 juin est devenu truc, mais bon, il reconnaît à demi-mot que
il parle de mythe fondateur.
Oui, voilà, c'est bon, tout à fait. Et nous sommes dans le mythe fondateur et à tel point que ça a dépassé ses créateurs. Et alors aujourd'hui, enfin, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen à l'île de Sein, qui essaye. Parce qu'en fait, finalement, à part Macron qui a très sciemment, on a compris, hein, parce que je crois que c'était le... C'est pas le centenaire... Non, c'est pas le centenaire de naissance de De Gaulle, c'est autre chose.
80 ans, c'est ça?
Ouais, enfin, il y a quelque chose de... Une commémoration, etc. Bon, enfin, bon, c'est l'année de Gaulle. Ouais,
1940-2020.
Ouais, c'est l'année de Gaulle, et il s'est déplacé à Montcornet, où De Gaulle a fait rouler quelques tanks, etc. Bon, bref. Bon, je vous pose les détails. Et Marine Le Pen s'est dit, tiens, je vais aller quand même gratter quelques miettes de ce repas qui a l'air quand même très appétissant médiatiquement. Et elle est allée à l'île de Sein.
Taper l'incruste.
Voilà, alors là, je vous demande, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je veux dire, de cette... bon, que les gaullistes soient les gaullistes, bon, c'est dans l'ordre des choses. D'ailleurs, ils étaient assez transparents, j'ai même pas entendu parler des Républicains, c'est vous dire. J'ai entendu parler de Macron, oui. J'ai entendu parler de Le Pen, mais j'ai pas entendu parler des autres.
Plus personne, je te dis... Les gens qui se réclament vraiment de la pensée de De Gaulle, ce sont des gens de troisième zone. Même les parois et compagnie, quels intérêts ils ont à récupérer
la
posture du général De Gaulle. Mais exactement, les gens qui le font actuellement sont les gens qui vont récupérer la France de Brazzaville, en fait. Hein. C'est la France de Brazzaville, c'est-à-dire le nouvel antiracisme de droite. Voilà, les gens qui récupèrent la pensée du général de Gaulle, en ce moment, c'est ça. C'est plus Nadine Morano, c'est la France de Brazzaville, c'est fameux résistants noirs, sans qui, évidemment, nous n'aurions pas pu gagner la Seconde Guerre mondiale.
Oui, tu veux dire, c'est pas le de Gaulle de Colombelle et de Mosquée, c'est le de Gaulle de « on a besoin des nègres pour se libérer des Germains », en fait.
Oui, non, mais c'est exactement ça. C'est la France de Félix Eboué, quoi.
Tu jettes un froid là de suite.
Oui.
Non mais t'as beaucoup de gens qui.
Non mais c'est vrai, il y a eu ça. Hein.
Non mais t'as raison.
Il y a eu dans l'émission de Zemmour pour le 18 juin ou pour la veille ou l'avant-veille.
Zemmour est gaulliste.
Ouais, mais donc il n'y a pas que lui, tu sais, dans l'émission. Donc déjà, c'est présenté par une négresse.
Oui.
Bon, c'est assez particulier. Ils ont fait le portrait de Eboué, là, Félix Eboué. Ça a duré une dizaine de minutes pour te dire que voilà, la France, la France combattante, c'était le Tchad. Sérieusement, hein, c'est Félix Eboué qui s'est remué voilà, pour.
Oui, il a sauvé la France.
Pour sauver la France.
Des blonds.
Sérieusement. Hein, c'est,
non, mais je sais.
C'est ça, l'exaltation du Tchad. On en est.
Bien
la
sûr,
droite,
bien
la,
sûr.
La droite patriotarde. Fait l'exaltation du Tchad. C'est encore trop réactionnaire.
Non, c'est pas ça. Là, Asselineau, c'est... Asselineau est honnête. Asselineau revendique sa filiation. il ne biaise pas, il ne triche pas. Moi, je le reconnais ça. Il est sincère, il déclare les choses qu'il pense. Je pense beaucoup plus à l'Action française. Elle aussi, maintenant, se roule dans la fange de l'antiracisme, c'est-à-dire de la haine anti-blanche et anti-française, parce qu'ils sentent que voilà, c'est là que se situe le gâteau, en sachant ce que la filiation de l'Action française, je veux dire, qui est indissociable évidemment de Maurras. Mais c'est incroyable, on y est. On y est.
Oui, genre, mais ce qui est important, c'est pas la couleur de peau, c'est la nation.
Enfin, ça fallait le dire à Maurras.
Ah, non, mais attends, malgré tous ses défauts, il aurait envoyé ces gens-là dans des camps, mais à la seconde. Quoi.
De Gaulle était maurrassien, il faut quand même.
Oui, non, oui, effectivement, son père était électeur de l'Action française.
Oh, de Gaulle était un monarchiste, je veux dire, c'est un monarchiste.
Oui, oui, bien sûr, mais l'Action française, il serait même capable de se réclamer de Gaulle, parce qu'effectivement, il avait une pensée un peu monarchiste, tu vois. C'est.
Moi, oui. Moi, je pense que De Gaulle avait une pensée monarchiste, mais exactement comme Napoléon Bonaparte, il est devenu bonapartiste. Tu vois ce que je veux dire?
Exactement.
Ouais, enfin, l'Action française, tu vois, maintenant, ils font de l'antiracisme de droite, ils essaient d'être plus malins que les malins, et donc, on va reprendre toute la rhétorique de la gauche, comme le disait Derek en début d'émission, quoi. Ça, c'est un jeu, c'est un jeu de perdant, en fait, hein. C'est un jeu de loi où, en fait, il n'y a qu'une case à la fin, bah, à la fin, tu deviens, antiraciste, super, tu fais la promotion de l'antiracisme. Évidemment, c'est bien le mal de la France, ça, effectivement. Ouais.
Alors non, il faut la promotion de la France. Il faut la promotion
de la France. Qui a fait
l'Action française. Non, mais l'Action française, eux, leur problème, c'est les boches. Les boches, les blonds, ça leur va pas.
Ils seront bien emmerdés quand il n'y aura plus, quand il y aura plus un seul de boches, ça va être compliqué quand même. Je sais pas, ils vont peut-être décolorer des nègres. Ils vont peut-être décolorer des nègres pour
le règne de la France. Voilà.
Et ben, peut-être que quand toute l'Afrique entière, je spécule un peu, va nous envahir, tu vois, par exemple, dans encore plus, j'ai envie de dire, dans 10-15 ans, et que les Boches vont venir nous libérer, peut-être que l'Action française va ironiser quelques instants plus tard en disant ouais, mais au moins on ne parle pas Wolof. Voilà.
Alors, du coup, messieurs. La visite de Marine Le Pen à l'île de Sein.
Je pense qu'elle aussi, elle essaie de draguer les vieux. Hein. Mais en plus, déjà, c'est mal foutu, son histoire. Donc, gros fiasco. C'est une opération électorale, c'est évident. Ça n'a aucun autre intérêt. Comme tu disais, De Gaulle est antifasciste, bah, comme Marine Le Pen, finalement. Mais en plus, c'est une opération politique. Mais, j'ai envie de dire, mais... Qui c'est qui va miser là-dessus, quoi? Est-ce que c'est grâce à ça qu'elle va réussir à essayer de choper le second tour de la présidentielle? En plus, c'est même mal pensé, quoi. Bien foutu.
Vivement que Jean-Marie Bigard fasse exploser ce parti en langue.
J'ai beaucoup de mal à prendre Marine Le Pen au sérieux, malheureusement.
Oui, c'est ça, c'est que elle essaie d'être solennelle.
Quoi qu'elle fasse, mais... je vois ça comme un sketch.
Ouais, je suis d'accord.
C'est Gaston Lagarde.
Je vous trouve très mauvaise langue avec Marine Le Pen parce qu'en fait, on lui avait parlé d'un apéro gratuit.
Ah. C'est marrant que tu dises ça, Diabolix, parce que avant ou pendant l'émission, avec Derek, on s'interrogeait entre Bigard et Le Pen, lequel des deux picole le plus.
Je suis pas sûr que Bigard picole tellement.
Oh, il picole un peu, si.
Non, il picole grave.
Ouais, c'est une éponge à Ricard.
Écoutez, je vous crois.
Ricard contre Champagne.
Je vous crois.
Au moins, c'est pas nous.
Sincèrement, les gars, excusez-moi, mais quand vous analysez froidement la situation, vous avez un apéro Zakouski gratos à l'île de Sein. Moi, je fais le déplacement.
Enfin bon, tout ça. Bon, revenons un petit peu au sérieux. Donc, on est clairement près 2022. Il y a des gens qui essayent de reprendre le costume de Gaulle, qui taille quand même franchement large pour les compétiteurs. Alors que, bon, de mon point de vue, hein, De Gaulle, pour moi, c'est pas un grand au sens vraiment grand, mais c'est beaucoup plus grand que les tocards qu'on se tape aujourd'hui, et de beaucoup. Et donc voilà, le déplacement de Marine Le Pen, j'ai trouvé ça effectivement grotesque, mais qui signifiait un ralliement total à l'idéologie Antifa. C'est un ralliement total de Marine Le Pen à l'idéologie Antifa. Alors, bien évidemment, un ralliement sous condition, hein, c'est un ralliement de droite, hein, c'est un rallye, comme De Gaulle s'est rallié aussi aux communistes, aux juifs, et bien sûr. Oui, c'est toujours avec trois conditions, laissez-moi ma messe, s'il vous plaît quand même la propriété privée, ici ou là, bon, on connaît, hein, mais en gros, c'est un ralliement à l'antifascisme, et Marine Le Pen s'est ralliée à l'antifascisme. Alors, elle s'est ralliée à l'antifascisme sur l'île de Sein, alors là aussi, une escroquerie énorme de la propagande gaullo-communiste. À aucun moment, les 130 pelés qui ont quitté l'île de Sein ne sont partis le 18 juin 40 avec l'idée de défier le Reich allemand. S'ils avaient voulu défier le Reich allemand, ils n'avaient pas besoin de prendre le bateau. Ils n'avaient qu'à rester là où ils étaient. Ça commençait par ça. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le bateau pour l'Angleterre. Pourquoi? C'est pour échapper, évidemment, à l'armée allemande. C'était ça l'idée. L'idée, c'était de fuir. Ce qui pouvait s'entendre, d'ailleurs, il n'y avait rien de choquant là-dedans, mais ils n'avaient pas envie d'être face à des soldats allemands et éventuellement d'être réduits en captivité. Donc ils sont partis en Angleterre, et là, ils ont eu le bonheur de découvrir que, étant en âge de porter les armes, ils étaient réquisitionnés par le gouvernement fantoche de De Gaulle, hein, soutenu par Churchill, et bon, exactement comme, comme en France continentale en 39, la mobilisation générale s'exerce, donc tous ces gens-là n'ont pas eu le choix et ils ont dû porter les armes. Mais quand on entend des trucs ahurissants, les mecs ont pris leur bateau et ils sont partis en Angleterre pour porter les... Non, là, on se fout du monde.
Croisade contre le fascisme.
Non, on se fout du monde. Et les gens avalent ça. Ils avalent.
C'est des bateaux, c'est quoi, des bateaux de pêche?
Des goélettes. C'est ridicule. C'est ridicule. Non, mais ridicule. Ridicule. Mais ridicule, je veux dire, la résistance. Mais là, ils pouvaient la faire où ils étaient.
Non, mais les gens ne sont plus...
Non, mais les gens, c'est ça. C'est ça le truc.
Du coup, on leur raconte... Bon, en fait, déjà, on leur racontait des histoires pendant des années. À l'époque, ils savaient un petit peu ce que c'était. Ils visualisaient. Maintenant, c'est trop loin.
Ouais, voilà.
Ça passe entre le télématin et puis Hanouna, quoi. Hein,
Ouais.
Bon, c'est ça. C'est comme la Shoah, hein.
Oui, mais le problème, et je suis d'accord avec toi dans ce que tu dis, mais le problème, c'est que c'est un point cardinal maintenant à l'extrême droite.
Ouais, mais bon, l'extrême droite, bon, c'est rigolo, quoi.
Oui.
Ouais, mais c'est rigolo.
Non, mais parce que, je regarde sur Twitter, les mecs, ils te sortent, comment dirais-je...
Oui, les réactionnaires. Oui.
Non, mais ils te sortent, Marie-Joséphine Baker... Elle a résisté. mais
ouais, mais attends, mais ça va devenir.
Écoutez, même Pascal Légitimus en a fait un skate. Même Pascal Légitimus, il a dansé avec des bananes. Bon, vous savez ce qu'elle a fait? Non, il faut toujours creuser sur tous ces mythes, etc. Non, parce que les mecs vous foutent ça sous le nez. Ah, Marie-Josephine Baker, ça, avec une citation, etc. Oh, voilà, alors, t'as vu, c'est la gauche, les vrais racistes, tu vois. Vraiment,
Mitterrand, il a eu la Francisque.
Voilà, c'est ça. Non, Marie-Josephine Baker. Quand elle a eu l'opportunité d'être un peu livrée elle-même dans le sud de la France, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté un château, elle a adopté des gosses du monde entier, c'est des Asiates, des Nègres, etc., pour créer une société utopique dans son château français avec des bâtards du monde entier. Voilà. Vous ne pouvez pas empêcher les métis, les bâtards, les paumés... d'être des paumés, des métis et des bâtards. À aucun moment, ces gens-là n'ont envie de la France française. Marie-Joséphine Baker, quand elle a eu son château français dans le sud de la... Elle a planté des nègres là-dedans, parce que sinon, c'était pas bien.
Et elle s'est aussi mariée avec un juif, d'ailleurs. Hein.
Mais oui, mais parce que ça... La France française n'intéresse pas ces gens. Ce sont des voyageurs, ce sont des touristes. Et tu vois les gros cons de droite, ils sont... Et puis là, j'ai découvert une autre rareté.
Français,
non, mais j'ai découvert une autre rareté. C'était un pilote nègre de l'escadrille Normandie-Niémen aux ordres de Staline. Non, mais là, c'est extraordinaire aussi dans son genre. Des pilotes mulâtres
qui vont résister à la Luftwaffe pour libérer la France sous le drapeau de l'Union soviétique. Ah là, puis là, je vois des nuées, des cohortes de réactionnaires qui sont extatiques devant ce faciès, hein, presque christique, du nègre avec son képi flanqué donc des armes de l'armée de l'air. C'est incroyable.
Quel nègre volant.
Tu n'as pas vu qui était le nouveau directeur de l'école de guerre française?
Ah, si,
c'est un nègre.
Un aviateur nègre.
Un aviateur nègre qui ressemble très exactement à l'affiche allemande où on voit un nègre avec son drapeau français avec derrière un juif. Et c'est, enfin, bon, c'est voilà. Nous sommes la propagande, je crois que c'est même pré-hitlérien pour le coup. Hein, c'est,
32.
En 1932,
c'est... Pas 33, hein, 32.
Ouais, c'est la propagande allemande des années 30 est toujours valable, enfin, donne des cas réels en 2020.
C'est-à-dire qu'elle nous informe, facilement. 100 ans à l'avance.
Oui.
Bien, bon, vous en faites ce que vous voulez. Hein.
C'est complètement fou. Les seuls pilotes noirs que j'ai vus étaient au cinéma. Et là, la France arrive à nous en sortir un.
Un général.
Un général en plus, pour le chef de l'école de guerre. Je sais pas où ils ont trouvé.
Alors, j'ai observé aussi que la commissure de ses lèvres est plus large que l'espace entre ses arcades. Sourcilière.
Oui, c'est exact. Il a des babines, le nègre. Ils sont particulièrement énormes.
Par contre, ce que nous venons de dire à l'égard du général, dénaturalisation immédiate, bien évidemment.
Nous ne sommes plus français.
L'hostilité de la totalité de l'armée française. Non, mais la totalité de l'armée française, là, nous vomit en ce moment. Je vous le dis tout de suite.
Oui, mais l'armée française et la droite réactionnaire.
Voilà,
patriote,
tout le monde.
Voilà,
Marie,
le blanc rouge. Le nègre à l'uniforme, quoi. C'est comme le nègre à lunettes, hein. C'est intouchable, ça.
Eh ben, vous savez quoi? Moi, vous savez, ça m'a fait penser une idée, cette affaire-là. Vous savez, quand on leur montre un nègre comme ça, là, qui se revendique patriote, ça fait beaucoup penser aux blancs qui se convertissent à l'islam. Il y a tous les bougnoules en commentaire en dessous, ils sont là. Ouais, trop super. Tu vois,
machallah.
Tu vois, machallah, je sais quoi. Bienvenue dans la communauté. Ben, c'est exactement la même chose, quoi. Tu vois, c'est. Ah, il s'est converti à la France. Non. Ça marche pas comme ça.
Mais c'est. Nous ne sommes pas l'islam, non.
Si, on dirait. Tu vois, la France, c'est comme l'islam.
Pour l'instant.
Je sais pas, c'est... Ne m'en voulez pas de cette comparaison. Enfin bon, ce 18 juin, moi j'ai trouvé.
Képi, mon nègre.
J'ai trouvé ça quand même.
Mon nègre ont besoin de képi.
Mais les Français aussi ont besoin de képi, j'ai l'impression.
Les Français ont besoin de. On sait pas trop.
C'est plus trop. Alors,
est-ce qu'ils veulent des nègres ou est-ce qu'ils veulent s'en débarrasser? Bon, il va falloir choisir à un moment. Hein.
Alors, messieurs, poursuivons cette discussion avec une nouvelle qui a surpris un certain nombre de personnes, y compris moi, je le dis sans embâge, c'est la censure par le Conseil constitutionnel de la loi Avia. Je vous cite un article du Figaro qui résume à peu près les faits. C'est un moment assez significatif. Mal ficelé, liberticide, censure pavée de bonnes intentions. Après les nombreuses critiques politiques, médiatiques et morales, le cœur du dispositif de loi contre la haine en ligne, dite loi Avia, a été censuré jeudi par le Conseil constitutionnel. Dans un avis rendu public, les sages ont en effet censuré l'article 1er du texte qui imposait aux opérateurs de retirer des contenus à caractère haineux ou sexuel diffusés en ligne, infligeant un coup d'arrêt à l'ensemble du projet de loi. Si le Conseil réaffirme que la Constitution permet aux législateurs de réprimer les abus de la liberté d'expression, ça prête à sourire. Il souligne que cette atteinte doit se faire de manière adaptée, nécessaire et proportionnée aux objectifs poursuivis. D'abord, la détermination du caractère illicite des contenus en cause ne repose pas sur leur caractère manifeste. Elle est soumise à la seule appréciation de l'administration. Donc c'est un reproche, hein. Ils disent, voilà, c'est un des éléments. D'autre part, l'engagement d'un recours contre la demande de retrait n'est pas suspensif et le délai d'une heure laissé à l'éditeur ou l'hébergeur pour retirer ou rendre inaccessible le contenu visé ne lui permet pas d'obtenir une décision du juge avant d'être contraint de le retirer. Donc en fait, tout l'argumentaire en fait du Conseil constitutionnel tourne autour du fait que le juge a été, dans le projet de loi Taïeb Avia, c'est très important de souligner la véritable filiation de la loi, Taïeb Avia et pas uniquement Avia. Donc le reproche principal est le fait que le juge est écarté du processus de censure, en fait. Mais c'est pas la censure elle-même. Donc là, j'y vois une réaction assez corporatiste, finalement, de la part du Conseil constitutionnel. En ce qui concerne l'obligation de retrait des contenus illicites, celle-ci s'impose à l'opérateur dès lors qu'une personne lui a signalé un contenu illicite en précisant son identité, la localisation de ce contenu et les motifs légaux pour lesquels il est manifestement illicite. Elle n'est pas subordonnée à l'intervention préalable d'un juge ni soumise à aucune autre condition. Ça, c'est les reproches. Le Conseil pointe donc le risque que l'opérateur retire tous les contenus qui lui sont signalés, aussi nombreux soient-ils, afin de ne pas risquer d'être sanctionné pénalement. Donc, en fait, il y avait l'idée, un autre élément du discours du Conseil constitutionnel pour justifier cette décision, c'est le fait qu'il y avait un risque de surcensure, en fait, que les plateformes étant de fait chargées de filtrer les contenus, se serait contenté en fait de faire du travail d'abattage sans chercher à analyser contenu par contenu la nature du contenu, pardonnez-moi. Et ils ont estimé qu'il y avait un vrai risque de censure abusive et donc ils ont censuré cette loi Taïeb Avia. Je dis Taïeb Avia parce qu'effectivement
cette loi est d'inspiration juive. Du CRIF, donc vice-président du CRIF.
Tout à fait. Gilles Taïeb, qui est vice-président
du CRIF. Qui hurle de douleur depuis quelques jours.
Tout à fait. Je précise, pour ceux qui ne le sauraient pas, que le point de départ de ce projet de loi a été revendiqué par Macron lui-même lors du dîner du CRIF en 2018. D'accord. Donc Macron.
C'est ce dîner-là où le président du CRIF lui tenait le poing.
Tout à fait.
Ça.
Tout à fait.
Telle une marionnette. Bien, ouais.
Tout à fait. Tout à fait.
C'est ça. Hein.
Donc c'est lors d'un dîner du CRIF où le président de la République Macron a été convoqué par ses maîtres juifs qu'il s'est engagé à produire une loi de censure, celle que vous connaissez, et qui a été écrite par le juif Gilles Taïeb, vice-président du CRIF. Donc vraiment, c'est les commanditaires de A à Z, et on a trouvé un prête-nom, ou plutôt un porte-document, en la personne donc de Laetitia Avia.
La personne.
Oui, je sais.
Il y a de l'espace pour les documents. Hein.
Mais disons que voilà, Laetitia Avia était simplement la boniche africaine chargée de porter le truc à l'Assemblée nationale. Mais c'était quelque chose qui a été complètement écrit en dehors de l'Assemblée. Ça a été totalement écrit par les Juifs. Et donc ça a été censuré. Alors, j'ai un certain nombre d'observations à faire, mais peut-être que... quelles sont vos réactions, finalement ?
Alors, j'en ai une. Il y a quelques semaines, on savait que cette loi allait être votée. Je crois qu'elle a été votée.
Elle a été votée
et donc retoquée au Conseil constitutionnel. Et en fait, depuis que cette loi a été votée, les réseaux sociaux donc, ont serré la vis au niveau des algorithmes. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens ont été touchés. Hein, les homosexuels l'aumônerie. Hein, voilà, l'aumônerie.
L'aumônerie, oui.
Ces gens-là aiment se traiter de... Enfin, c'est pas se traiter, ils revendiquent le fait d'être des PD. Et ce qu'il y a, c'est qu'en général, PD, c'est une insulte sur les réseaux sociaux. On se sert de ça pour insulter, en général. Donc les gens qui écrivent PD se sont retrouvés avec des comptes restreints. Sur Facebook, tu as eu beaucoup de suspensions. Donc ils ont fait des articles pour dire « Attends, gare à la censure !» Comment ça, les LGBT se font museler par la loi Avia, etc. Et je pense qu'il y a eu un contre-coup de cette manigance juive donc, qui était destinée à nous, les Blancs, mais qui, par le simple fait technique, ciblage de mots-clés, a touché aussi des fiottes particulièrement
virulentes.
Parce que des fiottes qui s'appellent PD entre eux, tu vois. Donc c'est quand même faut voir un petit peu le délire. Donc c'est comme ces gens-là qui sont dans les arcanes de l'État ont été touchés. Je pense que c'est pas que je pense, c'est qu'il est certain que le Conseil constitutionnel a eu à prendre en considération ces débordements indésirables quant à des populations
que le pouvoir courtise.
Qui sont le pouvoir.
Oui, tout à fait.
Que le pays doit permettre, par toute son action, de mettre en avant. Donc, si on ne peut pas mettre en avant les PD à dire qu'ils sont PD sur les réseaux sociaux, eh bien, ça n'est pas la bonne marche de la civilisation. Donc là, les Juifs, du coup, ont un problème. Donc, c'est tant mieux pour nous.
Problème résolu par la Commission européenne.
Non, pour le coup, non, pas du tout. C'est une décision qui est de la...
C'est franco-français.
C'est le Conseil constitutionnel qui a pris cette décision. Moi, pour moi, en fait, mon interprétation de la situation, c'est que la pression... Il y avait une vraie résistance de l'opinion publique, pour la première fois, parce que ce n'est pas la première loi antiraciste qui est votée en France. Donc, quand on dit loi antiraciste, il faut comprendre, loi faite, conçue... pour bâillonner les Blancs face à la dépossession qu'ils subissent. Donc on en a eu toute une batterie, vous pensez bien, la loi Pleven, la loi Guesso, la loi Lelouch, la loi Taubira, j'en passe, c'est des meilleurs. Et donc ce n'est pas la première, mais c'est la première fois qu'un véritable mouvement d'opinion s'est formé contre un projet de loi antiraciste. C'est la première fois, on n'avait jamais vu ça. D'ailleurs, dans l'article cité par le Figaro, où je lis au début, on entend parler d'une opposition médiatique, c'est totalement faux. Totalement faux. Il n'y a eu aucune espèce de campagne médiatique contre cette loi. Aucune. Aucune. À aucun moment, le journal Le Monde, le journal Libération, le journal Le Figaro, ne se sont opposés frontalement à cette loi en dénonçant un abus de pouvoir. Ce que ces journaux ont fait par pure mesure de sécurité, c'est qu'ils ont laissé des tribunes libres à un ou deux opposants, c'est tout, pour dire, voilà, cette loi pose problème parce que... Mais à aucun moment, ces journaux, qui d'ailleurs, par ailleurs, nous servent en éditoriaux chaque jour, n'ont pris position contre cette loi. Et c'est ça qui est très révélateur. C'est-à-dire que la presse d'État, qui est totalement financée par le gouvernement aujourd'hui, la presse d'État soutenait la loi. C'est ça la vérité. Ça collait totalement avec son idéologie, avec ses objectifs, et donc la loi Taïeb-Avia, pour eux, était une loi normale qui devait être votée. Simplement par, vous savez, pour pas avouer le crime, ils ont laissé, comme je l'ai dit, 2-3 opposants s'exprimer dans leur colonne, et en tribune libre, et exclusivement en tribune libre. En revanche, sur les réseaux sociaux, l'opinion publique s'est forgée et s'est forgée contre la loi Avia, avec une vraie force. Et là, on voit le basculement du rapport de force, c'est-à-dire que la presse, qui est devenue totalement tributaire de l'État pour son financement, n'arrive plus, en tout cas imparfaitement, à forger l'opinion comme elle le faisait il y a encore quelques années. Le Conseil constitutionnel, à mon sens, voyant l'évolution de l'opinion publique, s'est dit « bon, on va avoir une vraie résistance. Si on valide cette loi, il y aura des recours en masse, et ils vont venir de partout. Ça va venir de l'extrême gauche, ça va venir de l'extrême droite, ça va venir de gens qui sont apolitiques, des libertaires, allez savoir. Ça va venir de partout. Il va falloir qu'on se défende sur tous les fronts, il y aura des recours qui sont faits au niveau de l'Union Européenne, etc. Pas de bol, la Commission Européenne elle-même avait signifié quelques semaines plus tôt que cette loi, la loi Avia, n'était pas en conformité avec ce qui devait se faire en Europe, parce qu'en fait l'Union européenne a son propre projet de son propre projet en tête. Bref, enfin en tout cas, elle a disqualifié publiquement. Donc l'affaire était mal engagée, à la fois en raison de l'état de l'opinion et à la fois en raison de la position de la Commission européenne. Mais surtout, et je crois que ça a été décisif, quelques jours avant la décision du Conseil constitutionnel sur la loi Avia, nous avons eu une décision de la Cour européenne des droits de l'homme relative à une disposition qui avait été prise par, me semble-t-il, décret par des différents gardes des Sceaux, qui concernait donc l'appel au boycott des produits des colonies, enfin des produits des colonies israéliennes. Et la Cour européenne des droits de l'homme a cassé ces décrets en disant que l'État français n'avait pas le droit d'empêcher des gens d'appeler au boycott des colonies israéliennes, que c'était une limitation illégitime du droit à la liberté d'expression.
Ça n'avait pas été fait sous Valls, ce truc-là, non ?
Je sais pas, je sais que... Enfin, sous Valls, ça avait lieu, je crois que c'est plus ancien que ça, je crois que c'est en 2009, je crois que ça a pris corps en 2009, et ça a été systématiquement reconduit par tous les gardes des Sceaux, y compris par Taubira. En tout cas, cette décision a été cassée, c'est-à-dire que maintenant, nous pouvons tous collectivement appeler à boycotter les colonies israéliennes, et d'ailleurs même l'économie israélienne en général, parce que c'est un droit d'exprimer une opinion. Bref, ça n'a pas pu échapper au Conseil constitutionnel, qui s'est dit « Ah, il y a vraiment une possibilité de nous faire casser, et publiquement, et dans les grandes largeurs, par toute une série de gens ». Et vous savez, le Conseil constitutionnel, en dépit de tout, c'est une institution qui veut quand même chercher un consensus autour de pour fortifier son autorité. Si vous avez des gens qui sont à l'extrême gauche, à l'extrême droite, des gens qui sont pas forcément affiliés, qui sont en train de massivement contester votre projet de loi, et que dans le même temps vous avez la Cour européenne des droits de l'homme qui est en train de casser l'État français en disant non, là vous empêchez les gens de s'exprimer sur la question d'Israël, etc., le Conseil constitutionnel, qui sait forcément que ce projet de loi Avia aurait aussi concerné la question israélienne, n'a pas pu faire l'impasse. Et ils se sont dit, bon, on va pas se mouiller, on coupe court. Moi, c'est comme ça que je vois les choses.
Alors, c'est pas aurait concerné la question israélienne, c'est que
oui.
dans cette loi Avia, rappelle-toi, il y a la prise en compte de la définition d'antisémitisme définie par l'Institut de l'Holocauste, je ne sais plus trop quoi.
Le truc international, oui, dont on avait détaillé le contenu qui était ahurissant.
Fois, et dont, entre autres, le fait de dire que...
Non, mais en gros, les Juifs ont carte blanche, ils font ce qu'ils veulent, c'est tout. Voilà.
Les Juifs ont carte blanche, et notamment cette histoire de boycott des produits des colonies, et c'est dedans. Donc
oui,
ouais, c'est pas tant sur ton rein. En fait, cette loi-là, elle est en retard de quelques années, quoi. Elle arrive trop tard pour les Juifs. Alors, ce serait passé il y a un ou deux ans, ça serait passé comme une lettre à la poste.
Oui, enfin, faut pas non plus oublier que Madame Avia est un pur produit de la discrimination positive, qu'elle a été sélectionnée parce que c'est une négresse... mordante, hein. Donc on l'a placée là.
Pas pour son physique. Hein.
Elle est quand même avocate de formation. Donc je pense qu'elle est tout simplement nulle. Et apparemment, son projet de loi a été retoqué sur beaucoup de points, hein, énormément.
80%.
Oui, 80%. Ouais, donc elle est très certainement juste nulle. C'est fort possible. Peut-être que c'est ça.
Non, même pas. Non. Justement, le truc, c'est ça. C'est qu'en fait, non, tu peux pas l'accabler en disant, voilà, elle a mal rédigé son texte. Non, c'est simplement que les Juifs ont eu les yeux plus gros que le ventre.
Les Juifs se sont dit, le Conseil constitutionnel va se coucher.
Ouais.
Comme il s'est couché pour la loi Pleven. Parce que moi, je suis persuadé que quand la loi Pleven a été mise en place, Le Conseil constitutionnel aurait très bien pu dire quelque chose. Hein.
Non, mais sur la discrimination, même sur la loi Guesso, le Conseil constitutionnel a été saisi. Il a dit non, c'est parfaitement légitime. On peut alors que c'est complètement anticonstitutionnel. La loi Guesso,
c'est totalement anticonstitutionnel.
C'est anticonstitutionnel.
Exactement.
Mais ils ont dit là, enfin non, il y a eu des révisionnistes qui se sont retrouvés acculés justement. Voilà, on saisit et le Conseil constitutionnel a sorti des énormités, enfin des trucs anticonstitutionnels. Donc on sait très bien que c'est politique, c'est ça que je veux dire. On sait très bien que c'est politique, ce n'est pas du tout juridique. On n'a pas affaire à des gens qui sont, à des professionnels du droit, qui sont totalement détachés de toutes les contingences polémiques et politiques autour d'eux. Non, c'est faux. Justement, c'est ce qui me fait dire, en sachant à quel point elle est influencée politiquement traditionnellement, que cette décision ne peut pas ne pas être politique. C'est ça que je veux dire.
C'est un organisme politique qui est... indépendant de l'élection. C'est vrai que c'est assez... s'inscrit dans la temporalité longue, le Conseil constitutionnel.
Oui, par
c'est
définition.
C'est vrai que... oui, bah, du coup,
ils ont plus de marge de manœuvre, disons que... Ouais.
Ouais, ils ont plus de marge de manœuvre, disons qu'ils peuvent avoir une vision plus long, hein, sur le temps plus long, et voir si on passe ça, qu'est-ce qui va se passer après, sans penser à se faire élire ou pas. Alors, c'est pas forcément bien, parce que quand ta vision à long terme, c'est de la merde, bon, ben, là, ça donne la loi Guesso, quoi, qui passe avec des justifications de merde. Et là, quand t'as des trucs comme ça, où au niveau international, il y a des... on est déjà passé à autre chose, ça permet de faire contre-coup.
Je n'écarte pas aussi une possibilité, hein, c'est que le Conseil constitutionnel, voyant la pression monter formidablement contre cette loi, se soit dit que ça se transformerait en pogrom. Vous savez, quand vous interdisez aux gens de s'exprimer totalement, quand vous dites vous ne pouvez pas parler, c'est-à-dire vous ne pouvez plus vous exprimer, il va y avoir des violences. C'est un élément, je pense, qui peut jouer. Et comme on sait qui sont derrière ce loi de censure, à savoir les juifs, il n'est pas impossible que le Conseil constitutionnel, en plus de tout ce qu'on a dit, se soit dit que. Pour le bien des juifs, il faudrait les modérer, en fait. Il y aurait un peu cette idée-là. C'est-à-dire que le constitutionnel était...
Sauvons les juifs de leur démesure.
C'est ça, exactement.
Mais c'est vrai.
Il y a peut-être cette dimension-là.
Il est vrai que le pari des juifs, c'est de dire, bon, on va interdire aux blancs de parler... de parler comme ils veulent. Alors on va interdire les races, non, ils ne parlent pas, sinon plus de boulot, mort sociale, etc. Sur plein de sujets, ça marche quand même, relativement, c'est quand même très efficace, hein, depuis des décennies, il y a des mots qui sont interdits, on en aime des... Donc l'extrême droite reprend des formules qui étaient auparavant des mots d'ordre de l'extrême gauche, hein. On a parlé en début d'émission, mais en fait, le contre-coup de ça, c'est que certes, une bonne majorité de gens vont suivre, hein, vont oublier le mot de race, les races n'existent pas, mais quand tu interdis, il y a des gens qui n'aiment pas quand tu interdis de dire des trucs, tu vois, et ça, bon, ben, ça crée des... Ça crée le marché noir de l'opinion, c'est nous. Et nous et ça marche. Hein, ce qui a été interdit a beaucoup a une forte valeur. Et bon, et au plus c'est interdit, au plus forcément on doit être derrière au niveau. Donc avoir une certaine intensité dans nos propos. Donc si effectivement les juifs interdisent encore plus les discours, il y a fort à parier que le marché noir de l'expression
se radicalise, hein, bien sûr.
Voilà, se radicalise et on finisse à vouloir faire des trucs avec des juifs.
Oui, c'est possible. Oui. Bah, oui.
L'expérience.
Oui, enfin des choses qui ont eu lieu pendant 3000 ans. Hein.
Ouais, des tests en double aveugle.
Alors, puisque nous parlons des juifs et de leur rôle perfide, est-ce que nous pouvons parler un petit peu d'Assa Traoré ? On connaît Assa Traoré, vous la connaissez tous. Elle appelle à la guerre raciale, c'est quelqu'un qui est très volubile. Encore récemment, elle appelait à la haine la plus pure contre les flics. Bon, et pourtant, Dieu sait ici qu'on est critique à l'égard de la police. Hein. Mais la critique d'Assa Traoré contre la police est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus radicale, puisque d'ailleurs, elle est raciale. Et bon, c'est quelqu'un qui est très visible médiatiquement, elle a visiblement des ouvertures, on la retrouve à la radio, à la télévision, assez surprenant pour quelqu'un qui est censé être ostracisé en raison de son origine raciale. Eh bien, nous en avons appris un petit peu plus, et l'origine de ce renseignement n'est pas anodine, puisque c'est Causeur, le journal Causeur, hein, donc, qui est la...
Sous la communautaire juif.
Hein. Oui, hein, qui est la propriété de qui est sous la direction de Madame Elisabeth Lévy, donc qui est une militante suprémaciste juive assez bien connue. Et là, je crois que c'est un coup de sabot du cheval envers quelqu'un qui a peut-être péché par ingratitude ou qui pourrait pêcher par ingratitude. Je vous livre donc cet article de Causeur, qui pour moi est très important. Et qui nous en dit tellement. Ça s'intitule « L'étrange arrêt maladie d'Assa Traoré ». L'histoire est désormais connue de la France entière. Le 19 juillet 2016, un jeune homme nommé Adama Traoré décède à la gendarmerie de Persan, Val d'Oise, à la suite d'un contrôle d'identité mouvementé le jour de son 24e anniversaire. Figure de proue du comité Vérité pour Adama, sa demi-sœur Assa Traoré se bat depuis bientôt 4 ans pour que les gendarmes ayant procédé à son interpellation soient mis en examen, ce que les juges d'instruction n'ont pas considéré comme justifié. Assa Traoré répète souvent qu'elle a appris le décès d'Adama alors qu'elle se trouvait en Croatie pour déplacement professionnel. C'est exact, mais à préciser. En tant qu'éducatrice spécialisée, elle encadrait avec une collègue un groupe de 7 adolescents en voyage à Rabac, ou Rabatch, une station balnéaire de la côte adriatique. Une semaine de vacances offerte à des jeunes défavorisés, ce qui cadre mal, bien sûr, avec le discours martelé par le comité Adama sur les populations racisées, abandonnées, persécutées, décitées. Le nom de l'employeur d'Assa Traoré cadre encore plus mal avec ce discours. Il s'agit d'une fondation issue d'un réseau qui venait en aide sous l'occupation à des jeunes ayant de réelles raisons de courir pour échapper au contrôle d'identité. L'œuvre de protection des enfants juifs, l'OPEJ. Créé en 1945, l'OPEJ est désormais un acteur du social avec délégation de services publics. Elle s'occupe de tous les enfants en difficulté sans distinction de confession. Son nom complet est OPEJ Baron Edmond de Rothschild, car il bénéficie du soutien généreux de la Fondation Rothschild. Assa Traoré a publié Au Seuil en mars 2017 un livre témoignage écrit avec Elsa Vigoureux du Nouvel Observateur. À aucun moment elle n'évoque ces détails. Elle remercie la Fondation OPEJ pour sa compréhension et son soutien. En dernière page, sans développer le sigle. Selon nos informations, ce soutien n'était pas seulement moral. Assa Traoré n'est pas retournée travailler après le décès de son demi-frère. Elle s'est mise en arrêt maladie. Un arrêt qui s'est prolongé, nous a-t-elle précisé, jusqu'en août 2017. Elle est restée salariée de l'OPEJ, sans solde, assure-t-elle, jusqu'en décembre 2019. La nature exacte de sa maladie ne regarde qu'elle, mais n'importe qui peut facilement vérifier qu'elle a fait preuve durant ces 12 mois d'un allant formidable, enchaînant les meetings, les déplacements et les interviews. Elle reçoit Libération pour un portrait publié en septembre 2016. Le 13 octobre suivant, elle répond à Jeune Afrique. Le 5 novembre, porte-voix en main, elle anime un petit cortège place de la République à Paris. Le 17 novembre, elle se manifeste au conseil municipal de Beaumont-sur-Oise pour réclamer la vérité. Le 31 décembre, elle met en ligne ses vœux en vidéo sur Mediapart à l'invitation du site. En janvier 2017, Elle tient la vedette dans l'émission La Clique de Mouloud Achour. En 2018, même énergie, elle parle à Bastamag et reporter, elle se déplace en banlieue. Elle fait un entretien croisé avec Angela Davis, publié par la revue Ballast en janvier 2019. Angela Davis, d'ailleurs, qui a été recherchée pour terrorisme. Elle est en une des Inroc en avril 2019 et annonce qu'elle relance sa ligne de vêtements dans la rubrique « Où est le cool ?». En avril 2019, elle publie un second livre chez Stock avec l'universitaire Geoffroy de Lagasnerie. Ou Laganerie. Elle termine l'année 2019 comme vedette d'une soirée de soutien réunissant l'écrivain Édouard Louis, l'économiste Thomas Porcher, l'ex-footballeur Vikash Dorasso, la chanteuse Camélia Jordana, la militante Rokhaya Diallo, etc. Tout ceci est-il bien conforme avec le repos que suppose un arrêt maladie ? La question semble embarrasser au plus haut point l'OPEJE. Oui, elle travaillait chez nous, mais nous avons reçu des directives du siège et nous ne devons pas en parler, nous a répondu l'OPEJE de Sarcelles. Au siège, le directeur général Johan Zitoun répond que les salariés sont soumis au secret professionnel le plus strict, ce qui les empêche de divulguer la moindre information concernant le personnel. Il invoque l'impérieuse nécessité de préserver les travailleurs sociaux afin qu'ils restent concentrés sur leur mission quotidienne. Mission ? Assa Traoré n'aurait-elle pas plutôt bénéficié d'un arrêt de travail complaisamment prolongé ? Les sommes en jeu ne sont pas de celles qui bouleversent des grands équilibres de l'assurance maladie. Un salarié arrêté n'est pas indemnisé à 100% très longtemps et une éducatrice spécialisée ne gagne pas des fortunes. Sur le plan juridique, néanmoins, il y a un hiatus. Un salarié arrêté est censé rester chez lui et se reposer. En septembre 2016, la Cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation d'un salarié de la RATP qui avait fait campagne pour les municipales à la Courneuve pendant un arrêt maladie. Sur le plan symbolique, enfin, ce passage de la biographie d'Assa Traoré détonne. Le comité Vérité pour Adama Traoré regorge de militants antisionistes dénonçant le racisme structurel de l'État français. Il affectionne les raccourcis chocs. En voici un. Leur égérie a bénéficié de la générosité de l'État en question pendant des années avec le concours des Rothschild. Ils sont partout. Conclut donc cet article de Causeur. Bon, très clairement, en fait, vous avez... Bon, en gros, hein, les payeurs ne sont pas contents. Assa Traoré aurait toléré certaines dérives. Pourquoi cet article ? Eh bien, vous avez peut-être oublié tout ça, mais certains, peut-être de nos auditeurs ne l'ont même pas vu. Mais lors de la manifestation de la place de la République organisée par Assa Traoré contre les violences policières, entre guillemets, des cris antisémites ont été entendus dans la foule quand les identitaires ont déployé leur banderole contre le racisme anti-blanc. On a entendu notamment « sale juif », on en avait parlé, et puis aussi nous avons vu des banderoles qui disaient que Israël était le laboratoire des violences policières contre donc les racisés. Le laboratoire, c'était le terme utilisé, le laboratoire. Israël, laboratoire donc du racisme contre les Noirs et les Arabes. Donc, sur ce, cet article de Causeur, hein, de Lévy, hein, signé Lévy, qui dit « Eh oui, mais Assa Traoré, eh bien, elle est salariée par Rothschild, comme Macron, d'ailleurs. » Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ça me fait penser même de Wyatt Mann.
Oui.
Qui est très connu, hein, caricaturiste américain, où on voit l'explication de l'affirmative action, hein, où comment les nègres montent dans la société.
L'affirmative action, c'est l'équivalent de la discrimination positive.
Voilà, et tu as un nègre qui escalade, qui monte une échelle, mais l'échelle de chaque côté, tu as des nez de huître, hein, hein, donc il monte sur les nez du huître pour s'élever. Eh bien, ça me fait penser à cette image, hein, très, très précisément.
Quelqu'un d'autre sur le fait qu'Assa Traoré, en fait, qui appelle à la guerre raciale, soit financé par les Juifs ?
En fait, on passe à côté d'une information cruciale de l'article si jamais on ne comprend pas vraiment à qui s'adresse l'article. C'est-à-dire que ça vient d'Elisabeth Lévy, ça vient de Causeur, donc. Hein, et l'article s'adresse, en fait, directement à Assa Traoré. C'est une manière de lui dire, bon, écoute, tu laisses passer les antisionistes, des antisémites. Nous, on te finance, bah écoute, tant que ça fonctionne, quoi, j'ai envie de dire, tant que c'est juste la colère anti-blanche, mais dès que ça atteint les juifs, attention, on révèle des infos, parce qu'il est bien évident que les gens qui tournent autour de sa Traoré, je suis pas sûr qu'ils apprécient ce genre de publicité. Donc c'est un jeu de chantage, tout simplement.
Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est là qu'on voit vraiment que comment tous ces nègres sont des golems, quoi. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de problème, quoi. Je veux dire, c'est une stratégie qui vise à prendre en étau la classe moyenne blanche, entre en haut la banque juive et en bas tous ces auxiliaires raciaux que sont les nègres et les bougnoules. Et bon, ils sont totalement contrôlés. Et dès que, voilà, il y a tendance à la contestation contre Israël, etc., hop, le coup de pression est appliqué médiatiquement. On voit les canaux, hein, Causeur, hein, un journal qui est particulièrement apprécié de la droite réactionnaire. Et c'est là qu'on voit, on voit chez nous à quel point les gens sont idiots, quoi, je veux dire. Enfin, Causeur est un torchon juif, enfin, on pourrait les multiplier, quoi, je veux dire. Enfin, tout est contrôlé par les juifs, hein. Slate. Je veux dire, vous avez Causeur, vous avez Slate.
C'est l'équivalent. Juif de gauche ou juif de droite.
Non,
quoi,
mais
voilà,
je veux dire, même des trucs comme Loopsider, mais Loopsider, c'est Mourad. Mourad, c'est un juif qui est proche de Macron, quoi. Vous allez sur Loopsider, vous voyez des vidéos qui essaient de faire la concurrence à AJ+, en mode racisé, etc. Enfin, c'est du foutage de gueule intégral. Tous ces juifs sont partout. Vous avez vu à quel point le cynisme de ces youpins. Ils essayent de tourner en dérision la critique de plus en plus prévalente dans l'opinion sur le rôle des juifs en France. Et les mecs terminent l'article, enfin les mecs de Causeur terminent l'article en disant ils sont partout, donc les juifs sont partout, en référence, bah, c'est vrai, au journal Je suis partout, hein. En disant voilà, hein, vraiment c'est la paranoïa antisémite ambiante, voilà. Mais en fait ils revendiquent le crime en réalité quand ils disent voilà, à cette Traoré on te finance, ferme ta gueule. Ils sont partout. Peut-être tu dis, il y a deux façons de le prendre, quoi. C'est soit c'est de l'autodérision. Soit c'est pas vraiment de la dérision.
C'est une menace.
Et voilà, et bon.
Mais on se posait quand même des questions, parce que bon, cette nana-là, elle a que deux points à son QI, c'est évident. Elle arrive à tisser un peu quand même la colère, parce que bon, parce qu'elle fait la négresse, quoi, donc les nègres, ils aiment bien ça. Voilà. Elle gigote, quoi, elle bouge ses bras de guenon, donc les nègres, ils sont contents. Mais enfin, c'est quand même pas une lumière, et donc on se posait la question, mais comment est-ce qu'elle arrive quand même à ce côté, tous ces journaux, toutes ces caméras, à avoir autant de réseaux, à mobiliser autant, à avoir tous ces les t-shirts, les bus, c'est quand même, il y a un peu logistique derrière, quoi. Bon, bah voilà, il y a l'OPEJ, donc hein, l'œuvre de protection des enfants juifs. Ok.
Non, mais il y a surtout le baron de Rothschild. Il y a surtout le baron de Rothschild.
Ça fait penser un petit peu à Bouteja, Ouria, hein, la fameuse, qui passe son temps à cracher sur l'État français, alors qu'en fait elle est largement payée par l'État français, puisqu'elle travaille à l'Institut du Monde Arabe, dirigé par
Jack Lang.
Voilà, l'amoureux des enfants de Jack Lang.
Mais d'ailleurs,
très anti-système, bien sûr, hein, Jack Lang, hein, donc ça est très cohérent.
Bouteja, c'est une caricature, parce que tu vois. Elle essaye de pomper les juifs en étant antisioniste. C'est comique, quoi, je veux dire. C'est génial. En fait, Bouteja, en fait, elle rampe devant les juifs. Elle est antisioniste, mais elle rampe devant les juifs. Il y a un juif qui lui sort la carte de l'antisémitisme, elle s'effondre, quoi. C'est là que vous voyez des gens, c'est des clowns, quoi. Je veux dire, heureusement que la résistance palestinienne, enfin, je veux dire, pour les Palestiniens, n'est pas incarné par des guignols comme Bouteja, parce que sans quoi, je veux dire, les Palestiniens auraient été expulsés en Iran, je veux dire, il n'y en aurait plus, quoi. C'est ahurissant, quoi. Je veux dire, mais les Algériens ont autant de prétentions que... la prétention des Algériens est inversement proportionnelle à leur talent, quoi. C'est des clowns, hein. C'est des clowns.
En fait, je suis parmi les racisés, du coup. Il y a ceux qui se disent, bon, on va essayer d'avoir un petit contexte, on va dire, contre les Blancs. Et surtout, on va éviter de parler des Juifs, parce que comme ça, hop, t'as vu, je navigue. Et puis pour les non-racisés, bon, on a aussi une certaine droite qui fait un peu la même chose, nous. Mais à la fin, les deux, ils sont à voir. Hein.
Tout à fait.
Mais si jamais Assa Traoré se fait larguer par les Juifs, moi, j'ai du boulot pour elle en Belgique, sans aucun problème. Elle se fera grosso modo dans les 10 000 euros par mois, dans le prolongement de la rue d'Arscott au niveau de la scission entre la commune de Scarbeck et la commune de Saint-Just-et-Naude. Il y a d'excellentes vitrines où elle pourra exercer ses charmes sans aucun problème. Elle se fera un pognon particulièrement confortable. Elle est encore suffisamment jeune pour arrondir ses fins de mois. Et puis qui sait, elle pourra toujours trouver un maghrébin pété de thunes qui lui promettra la lune ailleurs. Et au moins, comme ça, elle fermera sa gueule et on la verra plus sur les chaînes de TV.
Les maghrébins ayant l'habitude d'enculer des moutons, je veux dire, avec la crinière qu'ils se tapent, de dos, c'est possible, hein, c'est jouable.
Oui, d'ailleurs, elle se balade
avec des bottes en caoutchouc, il n'y a aucun problème. Hein.
Elle se balade avec un mouton mort sur la tête. Hein.
Oui.
Oui, oui. C'est beau cas, ça. Alors, messieurs, pour enchaîner sur la guerre raciale hein, qui traverse le monde blanc, vous avez vu que cette semaine, l'ONU a formellement apporté son soutien aux Antifa ?
Oui.
On a vu pire.
Ah, c'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même. J'ai trouvé ça assez. Je pense que là, on a une... Enfin, les choses se dévoilent totalement. On est dans un moment de dévoilement, vous savez. On y est, quoi. C'est-à-dire que pendant. Moi, c'est ça qui me fait vraiment plaisir, c'est que. Et je parle pas uniquement de cette émission, ça fait des années qu'on explique ça. Ou qu'on l'annonce, quoi. Et les gens disaient... Enfin, je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutaient disaient, non, soit c'est caricatural, c'est exagéré, c'est inexact, bref. Et en fait, les choses se dévoilent maintenant. Parce que les antifas, c'est pas d'aujourd'hui qu'on les subit. Mais la pression est montée, et quand Trump a dit qu'il allait décréter les antifas comme une organisation terroriste, ce qui est le cas, on a vu les gens du système abattre leurs cartes. Ils ont été obligés de se dévoiler. Et l'ONU a pris fait et cause pour les antifas, et c'est pas la moindre des choses. Je vais quand même citer la communication officielle sur le sujet de l'ONU. C'est tout à fait frappant. Les experts des Nations Unies en matière des droits de l'homme expriment leur profonde inquiétude face à une récente déclaration du procureur général des États-Unis qualifiant les antifas et autres militants antifascistes de terroristes domestiques, affirmant que cela porte atteinte au droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique dans le pays, en pleines émeutes raciales. Donc en gros, si vous voulez, décréter les antifas organisation terroriste, ça porte atteinte au droit de réunion pacifique, en pleine émeute raciale, organisée par des antifas, revendiquée. Donc L'ONU déclare carrément la guerre au gouvernement américain. On en est là, hein. Je veux dire, il déclare carrément la guerre à la Maison Blanche, plus précisément. Moi, je suis content que ça se passe comme ça, parce qu'on voit l'ONU, sur ce sujet, sortir du bois. Je rappelle que le Covid-19 est une création intégrale, je veux dire, au plan médiatique, de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui est une succursale de l'ONU. Tout est lié. Ce que l'on voit, c'est un putsch. C'est un putsch. Ça intègre l'ONU, ça intègre des milliardaires, ça... mais ils sont en mouvement, et ils donnent les ordres, et on voit ces gens sortir du bois. N'est-ce pas ? Ce qui m'amène au deuxième point, et ça c'est la résolution de l'Union européenne sur les événements récents, puisque l'Union européenne a l'air très soucieuse de la vie d'un acteur pornographique noir américain qui vivait à Minneapolis, en l'occurrence George Floyd, au point de mobiliser la totalité de sa représentation au Parlement européen pour nous faire savoir ce que le Parlement européen en pense. Il y a eu des dizaines de points dans cette résolution. Il y en a trop pour qu'on les cite tous ici. Vous avez parcouru, hein, messieurs, je pense, tout ça. Vous avez pris connaissance du texte.
Jusqu'à l'écœurement.
Oui, 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 ça...
J'ai tout lu. C'était, comment dire, rébarbatif.
C'est rébarbatif. C'est rébarbatif et très extrême. Alors, donc, je...
C'est vrai, souligne. avant même l'énoncé des points, tu as des présupposés.
C'est oui,
des,
oui.
Sachant que...
Oui.
Et là, c'est bon. Avant d'arriver au début, tu as déjà envie de trucs qu'on oui. peut pas dire ici, quoi.
Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, du coup, c'est la résolution en tant que telle. Alors, je vais pas lire tous les points parce que ce serait effectivement fastidieux, pas nécessairement très intéressant. Il y a quand même quelques points qui sont assez frappants. Alors. Le Parlement européen, donc, alors, à 493 voix contre 104, plus une soixantaine d'abstentions sur un Parlement qui compte 751 membres. Donc, pratiquement 500 parlementaires ont voté le texte qui va suivre. Accrochez-vous, ça va défriser, hein. Ça inclut la droite des pays de l'Est, y compris polonaise. Pour ceux qui nourriraient un certain nombre d'illusions sur le sujet. Non, non, ça fonctionne comme en Union soviétique. C'est la même chose. Il y a une ligne, pas deux, pas dix. C'est pas la carte. Hein. Alors, accrochez-vous, comme je l'ai dit, c'est carabiné. Elle commence comme ça. Premier point. Donc, le Parlement européen affirme que la vie des Noirs compte. Donc, Black Lives Matter.
Ce qui signifie se ranger sous ce drapeau-là.
Ouais. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'il revendique, il ratifie le slogan du mouvement. Né aux États-Unis, je le précise. Donc, premier point, Black Lives Matter. La vie des Noirs compte. Deuxièmement, condamne vivement la mort affreuse de George Floyd aux États-Unis, ainsi que les meurtres similaires. Les meurtres similaires. Ailleurs dans le monde, présente ses condoléances à sa famille et à ses amis et à ceux des autres victimes, invite instamment les autorités à enquêter de manière approfondie sur ce dossier et sur les cas similaires et à traduire les responsables en justice. Alors, je viens d'apprendre par le Parlement européen que cet homicide involontaire est un meurtre. Il n'y a pas eu de procès encore. Vous savez, tous ces gens qui se gargarisent de principes, etc., vous le savez, en tout cas, vous devez le savoir, c'est dans votre intérêt, puisque vous êtes injusticiable comme les autres, que, jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire au terme d'un verdict, vous êtes tenu pour innocent. C'est important. Vous n'êtes pas coupable parce qu'on vous accuse de quelque chose. Vous êtes coupable parce qu'un tribunal vous a reconnu coupable. On est bien d'accord. Bien.
Ah non, mais attends, je t'arrête tout de suite. La porte-parole du gouvernement a inventé le terme de racisme impensé.
Oui, ça c'est vrai.
Donc... à ce niveau-là, si tu veux, elle est quand même communicante de métier. Donc, je pense qu'elle a dû, comment dire, un minimum réfléchir, même si c'est une négresse. Le racisme impensé, alors là, faut qu'on m'explique, quoi. Parce que soit tu es raciste et tu le penses, et ce qui est notre cas, ça ne nous pose aucun problème. Mais alors, le racisme impensé,
ça c'est Sylvette Ndiaye, c'est la porte-parole du gouvernement français. Mais là, on est en Parlement européen, et donc ces gens qui se gargarisent de leurs grands principes sur les droits de l'homme, la séparation des pouvoirs, etc., sont des gens qui décrètent, avant même qu'un procès ait eu lieu, que Derek Chauvin, donc le policier en question, est un meurtrier. Jusqu'à preuve du contraire, il est poursuivi pour homicide involontaire.
C'est d'autant plus dégueulasse qu'en plus, s'il s'agit d'un État étranger, quoi, c'est même pas un État membre de l'Union.
Bah, on va y venir. Au point 4, le Parlement européen invite le gouvernement et les autorités des États-Unis à prendre des mesures décisives pour lutter contre le racisme et les inégalités structurelles dans le pays, lesquelles se reflètent dans la brutalité policière, condamne les interventions de la police contre des manifestants et des journalistes américains et regrette vivement la menace du président américain de déployer l'armée américaine. Le point 5, sur le même ton, le Parlement européen soutient les manifestations massives récentes dans les capitales et villes du monde entier contre le racisme et la discrimination dans la foulée de la mort de George Floyd. Souligne l'appel des manifestants à prendre position contre l'oppression et le racisme structurel en Europe. Exprime sa solidarité, son respect et son soutien aux manifestants pacifiques et pense que nos sociétés doivent mettre un terme au racisme et aux inégalités structurelles. Rappelle le droit de chaque individu à manifester pacifiquement consacré par les traités internationaux. Condamne les différents incidents violents qui ont eu lieu. Je précise que ce que vous entendez, la résolution en question a été proposée par Ursula von der Leyen de la CDU. C'est la droite allemande qui préside aujourd'hui le Parlement européen. Attention, c'est pas un texte d'extrême gauche. Hein. Ça vient de la droite allemande. Hein. Donc on apprend que le Parlement européen aujourd'hui est fondé à dire à un président des États-Unis qu'il n'a pas le droit de déployer l'armée américaine là où bon lui semble sur le territoire américain.
Si je puis me permettre, Gandalf, parce que je t'avoue très honnêtement que ce texte est en train de me faire bondir à un point où je préfère m'abstenir de dire réellement ce que je pense, parce que ça rentrerait en contradiction totale avec les bases de ce site. Mais je vais quand même essayer de vous expliquer un truc, parce que nombre d'entre vous ne connaissent pas l'Union européenne et ne pratiquent pas nos petits copains. Donc, quand tu te trouves au sein du Parlement européen et que tu dois plaider pour un dossier, tu ne peux pas, par exemple, dire un truc du style « le Luxembourg ne respecte pas le droit européen ». Ça, c'est si tu sors un truc pareil, tu es éjecté du Parlement dans la seconde qui suit. Tu ne peux pas impliquer un État membre de manière directe. C'est-à-dire que tu dois dire « Je suis au regret, mes chers amis ici présents, de constater qu'un État de l'Union ne respecte pas tel machin. » Donc ici, nos petits copains, ils y vont déjà de front en impliquant les États-Unis d'Amérique et plus particulièrement le chef de l'État démocratiquement élu. Ça me sort par les trous de nez et pas que de voir ces pourritures appliquer des normes qu'elles ne toléreraient déjà même pas dans leur hémicycle. Et je te laisse continuer, on n'a pas fini, mais j'aime autant te dire, mon ami, qu'il y a du grain à moudre sur ces salopards, et pas que.
Ouais, t'as raison sur ce point, c'est intéressant ce que tu dis. Sixième point, condamne le suprémacisme blanc sous toutes ses formes. Donc le Parlement européen condamne le suprémacisme blanc sous toutes ses formes, y compris, pas le suprémacisme noir, hein. Pas le suprémacisme juif, hein. Pas le suprémacisme musulman, non, le suprémacisme blanc. Y compris l'utilisation de slogans qui visent à saper ou à affaiblir le mouvement Black Lives Matter et en diluer la portée. Donc on n'a pas le droit de critiquer. C'est pas possible, c'est pas autorisé.
Oui, on ne peut pas relativiser, c'est-à-dire que c'est un absolutisme là, qui
oui, voilà, totalement.
Disons que...
Je me permets à nouveau d'intervenir... Je rappelle quand même que le Parlement européen se trouve à Bruxelles, qu'il a été partiellement construit par des entreprises qui travaillent purement au black. Pour vous donner une idée de ce qu'est la construction du Parlement européen, quand il fallait nécessairement, parce qu'on avait émis l'idée de créer... Un escalier dans lequel on avait un aquarium avec des poissons qui descendaient, comme on savait très bien que le marché était contrôlé et réservé, l'entreprise devait rendre un appel d'offres, elle a rendu un appel d'offres à tous les fabricants d'aquariums. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est là dans la construction d'un bâtiment, on est dans du génie civil. Et pour être certain de bidouiller l'intégralité du système mafieux, on demande à des fabricants d'aquariums de faire un décor d'escalier. Bon, passons, ça c'est encore que dalle. Mais je rappelle quand même qu'à Bruxelles, au sein de l'Union européenne, nous avons, pas tellement loin du Parlement, un endroit qui s'appelle Matongé. Fulbert connaît très bien. Qu'est-ce que Matongé ? C'est le cloaque de tous les nègres de Bruxelles. Et quand je dis le cloaque, j'aime autant vous dire que je suis encore extrêmement soft. Dans Matongé, vous n'avez ni contrôle fiscal, ni contrôle sanitaire. Parce que le problème, c'est que dès que vous avez un représentant du ministère des Finances ou de la Santé publique, c'est-à-dire dans l'intérêt de tout le monde, y compris des nègres, qui pointent son nez, ça tourne à l'émeute. Donc, je vous laisse imaginer les qualités sanitaires des poissons qui arrivent sans frais de douane, avec des déductions absolument fantastiques, qui sont offerts à la population et notamment à tous les restaurants du coin, qui vont te les refiler parce que c'est très fun d'aller bouffer africain à Matongé, c'est le top du top. Il faut bien se rendre compte que tous les gars qui vont dans ces restaurants, ils risquent leur peau tous les jours. Bonne chance. Mais ça, le Parlement européen, ils en tiennent absolument pas compte. Hein, il n'y a aucun problème. Nous sommes des salopards de blancs extrêmement racistes. Par contre, on peut importer du singe, on peut importer du pangolin, on peut importer absolument tout de manière totalement illégale, sans contrôle de douane, sans contrôle de rien du tout, sans accise, sans TVA, sans tout ce que tu veux. Mais ça, les mecs, ils en ont rien à foutre.
On en avait parlé d'ailleurs dans une émission il y a déjà pas mal de temps maintenant sur le trafic de viande. D'animaux sauvages et en particulier de singes, viande dont certaines étaient carrément pourries, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Enfin, c'est tout.
Ah ben les poissons fumés sont complètement bouffés par les vers et ils sont en vente sans aucun problème à Matongé, il n'y a aucun problème, hein. T'as qu'à ramener tes épinards pour pouvoir te les préparer.
Ouais. Et pour en revenir à ce que Gandalf lisait, là, ce fameux document, moi, je pense, si je peux me permettre, que le point numéro 6 que tu viens de lire, Gandalf, c'est le, pour moi, hein, le point le plus important.
Vas-y.
Bah, tu l'as lu, hein, la condamnation du suprémacisme blanc,
oui.
Forme. C'est vraiment une attaque contre une prise de position contre les populations européennes tenues de...
C'est ça qui est génial, c'est ça qui est extraordinaire. Oui, c'est une prise de position contre les Blancs en Europe.
Oui, et qui les désarme totalement face à un mouvement qui est Black Lives Matter, mais si cela fait, et ça fera certainement école, ce sera contre tout mouvement similaire ou venant d'une communauté étrangère.
Non, mais ce qui est frappant dans ce qu'ils appellent le suprême... Il faut comprendre, il faut traduire. Par suprémacisme blanc, les gens, quand ils entendent ça, ils disent « Oui, c'est quoi ? C'est des groupuscules néo-nazis qui veulent poser des bombes dans des synagogues ?» Non. Non. C'est pas ce que veut dire le Parlement européen. Quand le Parlement européen parle de suprémacisme blanc, il parle des Blancs. Tous les Blancs. Sauf les Blancs de la haute société. Mais
Excuse-moi, pas en Europe, dans le monde occidental. C'est moi qui faisais l'erreur, sorry.
Ah ouais. Donc, ça vise toutes les populations blanches. Tout spécialement en Europe. Mais là, on se dit, mais il y a un problème. Parce que l'Europe est par définition le continent des populations blanches. C'est leur continent historique. Eh bien non. Vous découvrez que les populations blanches deviennent un problème structurel en Europe, d'après leurs termes. Alors, je vais citer... un autre point de cette résolution qui est assez impressionnante. Le Parlement européen demande aux institutions, organes et agences de l'Union européenne et aux États membres de dénoncer vigoureusement et publiquement le recours disproportionné à la force et les tendances racistes dans l'application de la loi chaque fois que cela se produit dans l'UE, aux États-Unis et à travers le monde. C'est extraordinaire, une espèce d'excommunication en Europe, aux États-Unis et dans le monde, décrété par le Parlement européen en cas de, je cite, tendance raciste. C'est quoi ça, une tendance raciste? Ou si c'est matériellement, ça correspond à quoi? On ne sait pas. Alors oui, ça c'est extraordinaire aussi. Résolution 12. Le Parlement européen rappelle l'adoption le 26 mars 2019 de sa résolution sur les droits. Donc la résolution rappelle la résolution. C'est presque un sketch. De sa résolution sur les droits fondamentaux des personnes d'ascendance africaine et demande à l'UE et aux États membres de la mettre en œuvre d'urgence. Alors, on en avait parlé, hein.
Donc en fait, vous découvrez que pour le Parlement européen, les personnes d'ascendance africaine ont des droits que n'ont pas les personnes d'ascendance européenne.
Puis-je vous rappeler, faire une petite parenthèse, Gandalf, sur la déclaration de sur la déclaration de von der Leyen d'il y a plusieurs mois, lorsqu'elle disait que la priorité de l'Europe allait vers l'Afrique. Te souviens-tu?
Ça me paraît clair, oui.
C'est une confirmation.
Le Parlement s'inquiète profondément des cas signalés d'extrémisme de droite dans les forces de sécurité, qui ont été mises en lumière ces dernières années dans l'UE. Donc, c'est pas l'extrémisme, hein. C'est pas le terrorisme ou je sais pas quoi. L'extrémisme de droite. Bon. Voilà. Donc, suprémacisme blanc, extrémisme noir, vous avez compris. Alors, bon, je pourrais continuer comme ça longtemps. Hein. Il y en a toute une série.
Mais Gandalf, bon, t'as 80% de taulards, que ce soit en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne ou autre, qui sont soit des maghrébins, soit des nègres. Ils sont en tôle pourquoi ? Ils sont en tôle simplement parce qu'on n'aime pas leur gueule, parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont maghrébins, ou ils sont en tôle parce que des magistrats ont jugé que ces gars étaient des voleurs, des assassins ou des criminels ? C'est là où il y a un énorme problème avec les décisions des imbéciles de Bruxelles.
Ah oui, non, je suis convaincu. Point numéro... Oui ?
Oui, tu arrives à quel numéro ?
33.
Ah, ouais, d'accord. Ouais. Moi, c'est rien, j'ai des remarques, mais je les ferai après.
Point 33 de cette résolution, parce qu'ils sont très prolixes. Invite les agences concernées de l'UE, y compris l'Agence des droits fondamentaux, l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs. On découvre des trucs, hein. CEPOL, ça s'appelle. L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs, Europol. À intensifier, dans le cadre de leurs mandats respectifs, leurs efforts de lutte contre le racisme et la discrimination. Donc, Europol, police européenne chargée de réprimer le racisme. Tel que défini par eux, hein.
Oui, là vous venez de découvrir des fonctionnaires que vous payez, vous savez pas trop pourquoi, mais ils vont vous faire chier, les mecs.
Oui, il y a des agences.
Rien qu'au nom, ils sont pas là pour vous. Hein. Enfin, ils sont là pour vous, mais pas pour vous faire du bien.
À point 34, ça fait suite. Le Parlement européen appelle de ses voeux un engagement financier sérieux dans le prochain CFP pour lutter contre le racisme et la discrimination dans l'ensemble de l'Union, déplore que le montant proposé pour la rubrique justice, droit et valeurs ait été considérablement réduit dans les propositions révisées de cadre financier pluriannuel de la Commission, demande à la Commission d'apporter une véritable réponse aux préoccupations concernant la marge d'action toujours plus réduite de la société civile indépendante dans certains États membres, rappelle qu'il importe d'assurer un financement suffisant au profit des activités des acteurs de la société civile qui œuvrent à la lutte contre le racisme et les discriminations. Bref, de l'argent pour des nègres agressifs qui haïssent les blancs, hein, c'est ça. Il faut plus de pognon pour ces gens-là. Comme à sa travail.
De l'argent pour les coupeurs de route.
C'est ça, exactement.
C'est, pour ceux qui ont connu, c'est exactement ça.
Alors, point intéressant aussi dans la rhétorique, là ça c'est au point 35, souligne que les entités qui s'engagent dans les activités discriminatoires contre des communautés racisées ou prennent des décisions ou mettent en œuvre des mesures à cet effet ne devraient pas être éligibles à un financement au travers du budget de l'Union. Donc là, c'est un appel à l'embargo de tous ceux qui ne sont pas dans la ligne, mais c'est l'utilisation du terme racisé qui m'intéresse. Vous voyez, ça c'est dans la résolution, on reprend les termes de l'extrême gauche intersectionnelle. D'accord ? Donc les insanités que vous voyez chez des travelots militants LGBT pour la suprématie, enfin bon, ça, c'est la littérature que promeut la droite allemande au Parlement européen.
Je rappelle, Gandalf, que nos petits copains de l'Union européenne ont eu la chance de se faire péter à la gueule un aéroport et une station de métro. Ils n'ont toujours pas compris.
Point 36. Le Parlement européen condamne le fait que partout dans le monde, ça c'est rigolo, hein, les forces politiques extrémistes et xénophobes détournent de plus en plus les faits historiques et les données statistiques et scientifiques
et emploie une symbolique et une rhétorique qui rappellent, par certains aspects, la propagande totalitaire, à savoir le racisme, l'antisémitisme et la haine à l'égard des minorités. Alors, deux choses, hein. Il y a des gens qui détournent les faits historiques.
Oui.
D'accord.
Ça s'appelle des journalistes.
Voilà. Ouais, j'aurais dit les juifs.
Non, détournent les faits historiques. Ah oui, alors eux, ils entendent plutôt les révisionnistes. Hein. C'est la Shoah. Et alors, ça c'est marrant, et les données statistiques et scientifiques.
Avec les juifs.
Non, c'est pas ça. C'est...
ah merde.
Les données statistiques et scientifiques par rapport à la question du racisme. D'après vous, quelles données scientifiques et statistiques?
Ah bah le QI. Ah, c'est le QI, bien sûr.
Non, mais pas.
Il y a des gens qui déforment.
La science est raciste.
Pas uniquement. Comme on l'a fait, ou comme, je sais pas moi, d'autres l'ont fait, Jean-Yves Le Gallou, on met en avant les statistiques de violence des nègres aux États-Unis, en espérant benoîtement que ça arrive en France, bah déjà, ah, ce sera interdit, tu vois. Montrer que les nègres tuent des nègres et qu'ils sont beaucoup plus violents que les blancs, rien que ça, tu vois, c'est du suprémacisme blanc.
Non, Marine Le Pen a dit non. Elle n'est pas d'accord, statistique ethnique, c'est pas la République.
Oui, c'est vrai, c'est pas la République. Tout le monde est pareil, les races, ça n'existe pas. Alors, je veux revenir quand même sur le point 19, juste pour montrer à quel point on a affaire à un tract antifa hein, de la part du Parlement européen. Le Parlement européen demande que toutes les politiques de lutte contre la discrimination s'inscrivent dans une démarche intersectionnelle et tiennent compte des problématiques de genre, de manière à venir à bout des discriminations plurielles.
Bon, ben, là, on est dans le... Là, on est dans le délire, hein, dans le délire intersectionnel. Pour le coup, le mot est lâché, pluriel, intersectionnel. Ça m'étonne qu'on n'ait pas parlé des homosexuels dans cette histoire-là.
Ah bah c'est fait. Problématique de genre.
Ah oui, bon, ça, j'attendais des mots plus crus, pour le coup.
Bah, oui, ceux qui font les lois, ouais. T'inquiète pas. Hein.
Transsexuel, ouais.
Oh, mais ok. Ouais.
Bah, alors, messieurs, bon, voilà, là, on a fait un panorama vite fait, là, enfin, on a fait le tour du propriétaire, on va dire. C'est pratiquement 40 points d'une résolution, là, les mecs s'écoutent parler. Je le dis, j'insiste sur ce point, ce n'est pas un texte qui a été proposé et voté à l'initiative de l'extrême gauche. C'est un texte qui a été proposé par la présidence du Parlement européen, qui est représentée par Ursula von der Leyen de la CDU allemande, c'est-à-dire l'équivalent des Républicains allemands, le parti de Merkel, et qui a été voté par 493 eurodéputés, dont le PPE, c'est-à-dire le Parti populaire européen qui représente la droite, entre guillemets, européenne, qui intègre notamment le PiS, le parti au pouvoir en Pologne. Donc, c'est important à souligner, c'est-à-dire que les Polonais qui, chez eux, hein, chassent les LGBT, etc., au Parlement européen, votent des directives comme au plus beau temps de l'Union soviétique. C'est à observer. Hein. Donc, visiblement, les Polonais pensent que tant que ça empoisonne les voisins, ça viendra pas chez eux. J'ai certains doutes sur ce sujet-là. J'ai certains doutes. Je pense qu'à terme, à force d'empoisonner des puits, ils finiront empoisonnés à leur tour. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, soit sur cette résolution, soit sur tout ce qu'on a dit précédemment ?
Quand on écoute tout ce que tu viens de dire, Gandalf, on ne peut que conclure que c'est une guerre totale qu'il faut mener. Là, c'est carrément l'entité de l'Union européenne qui rajoute sa petite couche de merde sur le gâteau de merde qu'on avait déjà qu'on nous sert déjà depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait, j'ai envie de dire, depuis la fin. On ne pourra pas négocier. On va faire une stratégie, on va baisser les yeux, et puis finalement, on va les lever à la fin. Non, c'est une guerre à mort. Ces gens, ils ont décidé de nous tuer, tout simplement. Et le lien que je fais, c'est aussi par rapport à... Tu as parlé de l'ONU, pour le coup, qui fait des déclarations antifascistes. Mais en fait, tout ça est très logique. L'ONU, c'est quoi ? En fait, l'ONU, c'est la suite de la Société des Nations. L'ONU, créée en 1945, à la suite de la Seconde Guerre mondiale. L'ONU est profondément antifasciste. Qui a gagné la guerre ? Ce sont les antifascistes qui ont gagné la guerre.
Hein. Bon, les Juifs, oui.
Contre les Juifs, qui sont opposés contre les fascismes allemands et italiens. D'accord ? Donc, en fait, c'est la continuité. Et pour le coup, quand j'entends les fameux souverainistes sortir du bois là, et qui nous disent « Regardez l'Union Européenne, c'est les vrais nazis », vous avez rien compris les mecs. C'est tout l'inverse. L'Union Européenne, finalement, donc c'est la, bah, on va dire, c'est aussi la conséquence de la défaite des Blancs dans la Seconde Guerre mondiale, et la coalition en fait, de la démocratie à perpétuité, comme disait Bardèche. Et finalement, on met en place un État totalitaire anti-blanc. Et les donc ceux qui disent l'Union Européenne nazie, non, les gars, c'est tout l'inverse. Ce sont les cocos là, qui sont en train de mettre en place.
C'est ça, oui, totalement. C'est les communistes, tout à fait. Là on est face à une enfin, c'est clair, les communistes, là, ils abattent carte sur table et ils se révèlent, quoi. Moi, je me rappelle quand je disais que qu'on affrontait des communistes et les gens disaient, mais non, le communisme, c'est mort, ça n'existe plus. Non. Le communisme, il est mort en Russie. Mais en Occident, il n'est pas mort du tout, le communisme. Et on affronte des communistes. Et là, c'est ce qu'on voit.
Non, on dit que la nature du vide, c'est bien connu. Moi, j'aimerais dire un petit truc, là. Il y a quelque chose qui m'a, deux choses qui m'ont frappé, parmi d'autres. C'est le point 15, où l'on vous dit ouvertement qu'on va compresser les têtes de nos enfants pour qu'ils soient antiracistes, pour qu'ils aient la compréhension de la diversité, etc. Bref, qu'on va les entreprendre par l'éducation, donc dès l'école. Ensuite, il y a dans le point 16 un mot, moi, que je n'avais jamais vu. Je ne sais pas si tu l'avais lu tout à l'heure, je ne crois pas. C'est afrophobe.
Oui. Je ne l'ai pas lu, mais...
D'accord, oui. Et, voilà. Moi, j'interprète, Pierrot, ou Magdalena, non, c'est Pierrot, qui vient de parler, a raison. Moi, je l'interprète un peu d'une autre façon, même si elle est similaire, parallèle. En fait, moi, je trouve que c'est un beau début d'une constitution future pour établir en Europe un super État sud-africain.
Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Je veux dire que la chasse aux Blancs, la destruction des structures blanches en Afrique du Sud depuis des décennies, des meurtres d'individus à répétition, en veux-tu, en voilà, je veux dire, en Afrique du Sud, eh bien, tout cela vient d'être écrit noir sur blanc dans cette révolution de l'Union européenne. Et on donne des droits, on promet, je ne dis pas qu'on les donne, on ne les donne pas, parce qu'ils ne sont pas passés sous forme de loi, mais on promet des droits à des gens qui, demain, pourront à la limite vous massacrer si vous n'êtes pas d'accord avec eux, si vous êtes trop souvent dans la rue ou des trucs comme ça, ou bien si vous avez rentré peut-être un peu trop d'argent ou quoi, ou une trop grosse voiture. Et on donne tous ces droits à ces sauvages venus d'ailleurs pour vous détruire. Et c'est en cela que je parle de constitution, un beau projet de constitution future, d'un super État sud-africain, parce que il se passera en Europe ce qui s'est passé en Afrique du Sud, tout simplement.
Bah, ça,
Fulbert, ça fait Fulbert, un... excuse-moi. Vas-y, Gandalf.
Oui, ça fait écho à la manifestation des sans-papiers qu'on a vue à Paris, bon, la énième, où il y a une négresse qui dit « Vous, les Blancs, vous finirez à genoux devant les Noirs, hein. Vous supplierez les Noirs. Hein. »
Je n'avais dit un jour, vous serez à genoux devant les Noirs. Vous serez un jour à genoux devant les Noirs. Vous allez supplier.
Je veux dire, les nègres sont instrumentalisés, comme je l'ai dit, par à la fois par ces instances multinationales, par ces très grands groupes internationaux, par la finance, mais il y a vraiment une convergence. Enfin, à aucun moment, là, ce qu'on est en train de vivre, là, vous savez, aux États-Unis, ils ont même détruit cette semaine, à Portland, la statue de George Washington, je veux dire, le fondateur de la République américaine. Ce n'est pas une révolution culturelle, je veux dire, qui vient uniquement de la base. Il faut pas se tromper. On voit très clairement les grands groupes, les grandes marques, les grands médias, les politiciens, les grandes institutions, soutenir à fond. Ça n'a rien à voir avec une révolution par définition marginale et qui vient de la base. On le voit bien, il y a une instrumentalisation. Quand on voit ça, on doit rester sur ses gardes. On va dire, attendez, là, il y a des gens qui ont un calcul en tête. Et les Blancs sont ciblés, on le voit.
Mais Gandalf, excuse-moi, mais bon, je reviens sur ce que j'ai dit il n'y a pas tellement longtemps. Est-ce que tu te rends compte que à Bruxelles, à la base du bâtiment du, comment dire, de l'Union européenne, tu as des terroristes maghrébins qui ont fait péter une rame de métro, que l'aéroport de Bruxelles National est parti en couille parce que des maghrébins ont fait péter à coups de bombe artisanale un aéroport. Ces gars qui sont quand même, qui ont quand même fait des études, qui sont pas carrément lobotomisés, se rendent quand même bien compte que ces gens nous haïssent et nous dégueulent à un point absolument phénoménal. On pourrait s'attendre au moins à avoir une réaction logique. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ben, ils sont en train de dire simplement que les Blancs sont des sales cons et que quelque part, ben, si quelqu'un doit crever dans l'histoire, ben, ce sera pour notre gueule et pas pour les autres.
Tout à fait. Messieurs, je vous propose de nous dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, chers amis.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.